Oh, voyez-vous ça, c'est le bureau ovale. En fait, j'étais à la recherche de... la chambre rectangulaire.
Une ombre grandit sur le mur derrière toi. Qu'est-ce que c'est?
Tu m'as dit une petite scène de mon gorgon?
Ça veut dire qu'on est piégé, ça tient pour sa peau.
Oh, tu vas la faire.
En fait, j'avais pas prévu de me montrer parce que votre conversation est super bizarre et embarrassante et je voulais pas que ce soit gênant.
T'as l'air réjoui?
Je le suis.
T'as fait un truc dégoûtant?
Moi, je ne suis pas si réjouie que ça.
Dès que vous êtes absolument certaine que je ne vous entends plus, posez votre question.
Les oiseaux sifflent! Le printemps siffle!
Exécutez cette bête!
God, please, no! 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 No!
Bonjour! Bonjour Damien, comment ça va?
Hello, ça va bien, même si j'ai fait des cauchemars.
C'est très personnel. Bonjour Mathilde, comment ça va?
Ça va bien, moi j'ai pas fait de cauchemars.
Ah.
Moi, je brise les règles du small talk.
Oui, non, j'allais dire que j'ai fait un rêve aussi, mais je pense pas qu'il faille en parler, sauf si vous voulez me prendre pour un psychopathe.
Moi je sais, effectivement.
Est-ce que Halloween s'est bien passé?
Oui, c'était trop bien.
Oui,
on était ensemble. Tu sais très bien.
Et oui, c'est vrai, c'était bien. Mais maintenant que c'est passé...
C'était pas Halloween, on a fêté Simon.
C'est vrai.
C'est pas pareil.
C'est pas prétentieux.
Non, c'est vrai, c'est le différent.
C'est vrai que Simon, c'est le Halloween des gens prétentieux.
Non.
Non.
C'est autre chose.
Oui. C'est le nouvel an celte, pour info. Mais maintenant que tout ça est passé, est-ce que vous êtes prêtes et prêts pour avoir 1 million de films de Noël?
J'ai entendu que
à regarder.
À la télé, ils avaient déjà commencé en octobre.
Depuis octobre.
Non.
Mi-octobre.
Je refuse.
TF1 et M6 ont pété un câblage.
Et ils avaient oublié l'automne, ils sont passés direct à l'hiver.
Bah, en même temps, des films de l'automne, il n'y en a pas beaucoup.
Oh, si, il y en a plein.
T'as tous les films d'horreur.
Ouais.
Ok.
Et tous les films qui parlent de sorcières, de vampires, de monstres, de sorcières, de sorciers,
de
les
vampires.
Harry Potter.
De monstres.
Enfin, il y en a plein.
Ok.
Et oui, au programme de ce mois-ci, la saison 4 de On My Block sur Netflix, la saison 2 de Lock and Key aussi sur Netflix et l'incroyable documentaire Montre jamais ça à personne sur Prime Video. Est-ce que ce programme vous convient?
Yay. Yeah.
Alors, on va commencer par les Hypito. Mathilde, on va commencer par toi.
Alors, moi, bien
si
évidemment,
bien.
Mon hypito, c'est que j'ai appris que Netflix allait sortir un film de Noël par semaine à partir d'aujourd'hui. Nous sommes actuellement le 1er novembre et du coup, il y aura un film de Noël chaque semaine
ça
jusqu'à
combien
Noël.
Quelle joie.
Ça fait au moins 10 films.
Ça fait beaucoup de films de Noël.
T'as pas peur que la qualité soit pas là?
Ah non, il y aura aucune qualité, ouais.
Ah oui.
Non, je m'attends
mais
pas.
Mais t'es content, c'est bien. Ouais. Il faut se satisfaire.
C'est des films que je vais dire, c'était nul.
Je trouve qu'il y a beaucoup trop de clémence envers les films de Noël. Sont
ouais.
souvent très nuls et on aime bien.
J'ai pas regardé.
J'avais parlé des personnes qui s'appellent Clémence. Du coup, ça me va mieux.
Très
méchant. J'ai pas regardé les résumés, les titres et tout ça qu'elle est sortie, mais c'est des films de Noël, donc c'est forcément mignon, amusant et sympa.
Et ça peut être nul.
Et c'est nul, mais c'est l'ambiance.
J'en ai regardé quelques-uns l'année dernière et c'est vrai que c'était nul.
Et sinon, j'ai aussi un dépito. Bouh. Je me fais des petits bruits tout seul.
Mais alors, vas-y, dis-le.
Mon dépito, c'est qu'on regardait Park and Recreation, comme vous avez pu le constater dans les derniers épisodes, et nous étions à la saison 7. Et un matin, j'allume la télé, et là, plus de Park and Recreation.
Est-ce que je peux me permettre une question? Est-ce que c'était prévu? Parce que ça se trouve, c'était prévu depuis
très longtemps.
Non,
c'était sur Salto. Du coup, Salto communique pas trop sur
les sorties du catalogue.
Les sorties de catalogue, mais même... Tout le monde, enfin personne communique vraiment à part Netflix de
Netflix
temps en temps sur les sorties de catalogue.
Bah Netflix, ils communiquent beaucoup quand
ouais,
même.
Ouais,
bah
enfin, Salto, si pas du tout. Pas du tout. Donc après, j'ai vu que c'était sur Prime apparemment, mais j'ai vu la saison 1, alors est-ce que j'ai pas tout compris encore. Mais vraiment, c'était galère, il nous reste quelques épisodes et.
La déception.
Et ben voilà, déception.
Du coup, on en parlera pas ce mois-ci.
Bah non, pas ce mois-ci, non. Next. Emilien.
J'ai fait du fact-checking. La série s'appelle Parc et Loisirs sur Prime Vidéo, premier degré quoi.
Québécoise.
Il y a l'air d'avoir 7 saisons.
Ah bah il y a l'air, donc on va pouvoir finir ça là. Mais j'étais énervée, mais c'est arrivé, c'est arrivé cette semaine quoi sur Prime. Donc ça fait quand même 2-3 semaines que bah c'est le vide, c'est dans le vide, il y avait rien. Ah,
c'est triste.
Oui. Donc le mois prochain, peut-être on vous parlera de Park and Recreation.
Ouais. Et ben moi Salto m'a réjoui.
Oh.
Courant octobre.
Les montagnes russes.
Puisque gros coup pour Salto, car l'intégralité de la saga 007 est arrivée. Ça s'appelle Collection James Bond. Et donc il y a les 26 films.
Pourquoi je me disais, ils se sont pas foulés pour le nom.
Non, c'est pas. En même temps,
ils vont
pas
donner un autre nom.
L'agent très secret.
Oh, l'agent très secret britannique.
On dit même pas son nom.
Bah non, mais c'est vachement bien. Et surtout, ça arrive au bon moment. Enfin, c'est, évidemment, c'est prévu. Je ne suis pas dupe. Ça arrive au moment de la sortie du film Mourir peut attendre au cinéma. Voilà, c'est hyper cool. Quand j'aurai un peu de temps, sans doute que je me regarderai certains. Et si on a vraiment beaucoup de temps, c'est l'occasion de se faire un gros marathon.
Bah, il y aura bientôt un nouveau confinement, hein, donc tu vas pouvoir en profiter.
Eh oui, mais faut en profiter parce que voilà, comme on vient de dire, Salto enlève des trucs sans trop prévenir, donc peut-être que d'ici quelques mois, les James Bond vont partir, donc sans qu'on s'en rende compte. Et en fait, c'est vraiment, je suis moi et Pito est un miroir à celui de Mathilde puisque elle crachait sur Salto et elle disait merci à Prime Video, bah moi j'encense Salto et je râle auprès de Prime Video puisque Mixte, la série qu'on avait pas mal appréciée Mathilde et moi et dont on avait parlé dans le récapito du 21 juillet, non de juillet 2021.
C'était trop bien.
Et bah c'est annulé, voilà. Quoi, pas de saison 2, des os.
Hein,
faut bien rembourser le foot. Hein.
Ça avait bien marché.
Mais non, ça avait trop bien marché.
Bah oui, mais voilà.
Et en plus, il y avait une ouverture d'une suite.
Bah oui, mais voilà.
Mais que vont devenir les deux jeunes qui sont partis
en bus
dans
leur car
pour fuir leur vie
et, bah,
et vivre leur amour.
Tu bah, peux t'as qu'à faire une fanfiction.
Voilà,
ah,
le dire exactement. Mais voilà, et ben, désolé.
Déception.
Ouais. Faut rembourser le foot. J'ai déjà dit cette. J'ai déjà
ça
dit
coûte
cette
pas blague. Cher le foot.
Ça coûte une blindasse. Bah voilà, Damien. À toi, tu vois que tu as un hypito aussi.
Oui, moi j'ai juste un hypito, j'ai pas de dépito parce que je suis quelqu'un de positif dans la vie. C'est l'arrivée de Hawkeye le 24 novembre, la série Marvel qui est basée sur le comics éponyme. Et du coup, c'est très bon signe parce que le comics était vraiment très très bien.
Tu l'as lu ?
Oui.
Tu l'as ?
Non.
Ah, dommage.
Mais oui, effectivement. Je l'ai lu il y a quelques années et il était vraiment très bien. Je suis content que ça arrive.
Et en plus, ça, je trouve ça cool parce qu'on parlait des films de Noël. C'est une série qui se passe à New York en plein Noël. Donc,
parfait.
C'est ambiance très, 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 très Noël. Enfin, je trouve ça très amusant.
Ça sera Noël dans les choses que je regarderai, je pense.
Exactement.
Ah bah tiens.
Oula.
Les films Netflix pour Noël.
Non, mais on n'est pas obligé de regarder la liste. Hein.
Regardez, ils viennent de faire une liste sur Instagram. C'est incroyable.
Oh là là.
Ah, il y en a beaucoup. Ah, ça arrive à donner. Le 5 novembre, Love Hard. Le 6 novembre, Noël avec le père.
Hein ?
Ouais, c'est marqué ça. Le 17 novembre, Christmas Follow. Le 18 novembre, La princesse de Chicago en quête de l'étoile. Le 24 novembre, A Boy Called Christmas. Et le 26 novembre, Un château pour Noël. Ça fait déjà 6 films rien qu'en novembre.
Il y en a plus, il y en a beaucoup plus qu'un par semaine.
On
est
déjà fatigué.
Ah, en fait, oui, oui, oui.
Ah non.
Non, c'est ça arrive, c'est les nouveautés.
Il y a déjà tout
autres,
ce qu'il y a déjà.
Tout ce qu'il y a déjà.
Ok.
Si on avait oublié, il ouais, y en a une sacrée.
Il y a encore une suite à La princesse de Chicago.
Eh oui.
Mais
en
il faut
quête.
Arrêter l'hémorragie un moment.
En quête de l'étoile.
Jamais.
Oh là 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 là.
Je
là
crois
là.
Que tu confonds avec un autre film.
Non non, La princesse de Chicago, c'est avec la meuf de Vanessa. Jens de High School
ah oui.
Musical.
Oui, c'est vrai.
Mais c'était déjà pas bien les deux premiers.
Oh. Oui, mais très belles, elles étaient jumelles.
Oui, mais bon, qu'est-ce qu'ils vont nous faire là ?
On en avait deux pour le prix d'une. Enfin voilà, voilà, je me suis wouh, voilà, c'est bon.
Wouh.
Et bah très bien. On peut passer maintenant aux séries qu'on a regardées ce mois-ci.
Papa.
Comme d'habitude, on va spoiler les séries et les parfois films dont on parle. on va raconter des choses plus ou moins importantes de l'intrigue. Donc si vous ne voulez pas être spoilé, allez regarder les séries et les films et revenez nous écouter après. On va commencer par une série que Mathilde a regardée toute seule sur le
Netflix.
Canapé. Oui, c'est Good Girls.
C'est pas faux.
Oui, c'est un peu sur le canapé, un peu sur mon bureau. Des fois, je regarde aussi sur l'iPad en faisant un
mot. Tous les endroits où tu regardes des...
Mais sinon, des contenus. C'est principalement la série
dans
est
le bus,
sur Netflix.
Non,
je regarde pas dans le bus. Du coup, c'est Good Girls. C'est une série qui est sortie en 2018, donc ça date un petit peu. J'en avais entendu beaucoup parler. Ouais, ça fait pas mal parler. Et du coup, j'ai regardé la saison 1, qui fait 10 épisodes d'environ 40 minutes. Et le résumé nous dit « Trois mères de famille, bien comme il faut, orchestrent le casse d'un supermarché pour échapper à la ruine et accéder à l'indépendance. » Voilà, c'est ça le speech. J'avais regardé le début et je me rappelle que Damien est arrivé. Donc il avait entendu un petit
ça
peu.
Ça avait l'air marrant.
Ouais, c'est pas mal du tout comme série. Ça m'a un peu fait penser à Breaking Bad parce que dans le rythme, je trouve que c'est un peu lent, tu vois. Ah ouais. Le rythme est à peu près le même. Bah il y a plein d'histoires de comment dire, pas
Marquis,
de mafieux, mais oui.
Qui se retrouve coincée et qui fait des trucs mal alors.
Ouais, c'est ça. Et en plus, oui, la thématique de base, genre, on n'a plus rien à perdre, donc on va devenir des criminels, tu vois. Bah là, c'est ça. Sauf qu'au lieu d'être tout seul et d'être un monsieur, c'est trois femmes. Et elles commencent par braquer une banque, et puis après, elles sont un peu prises au dépourvu parce que non, elles braquent pas du tout elles braquent une supérette. Il s'avère qu'en braquant la supérette, elles s'aperçoivent qu'il y a beaucoup d'argent, genre beaucoup plus que ce qu'il devrait y avoir, parce qu'en fait, la supérette sert pour blanchir de l'argent.
Pas de chance.
Et du coup, le gang qui blanchit son argent à cet endroit les trouve et elles se mettent à devoir être un peu missionnées par eux pour faire d'autres choses et rapporter de l'argent, les rembourser, etc., etc. Donc voilà, c'est ça l'histoire. Moi, j'ai trouvé ça pas mal. En plus, le trio d'actrices marche vraiment super bien. Il y a Christina Hendricks qui joue Bess, qui jouait aussi un des rôles principaux dans Mad Men, la grande rousse.
Ah oui.
Il y a Retta qui joue Ruby. Retta, c'est son nom d'actrice, qui joue Ruby et qu'on avait vu aussi dans Park and Recreation.
Oui.
Et il y a Maeve Whitman que je connaissais pas du tout.
Je ne sais plus son nom. C'est la dame noire.
Comment elle s'appelle? Je ne sais plus.
Ah bah je pense que je vois parce qu'en fait il y a pas beaucoup de personnes noires dans.
Non, il y en a qu'une.
Mais si on avait vu la saison 7, on aurait les noms en tête.
Oui, c'est ça.
Ouais,
en fait.
C'est ça.
Vraiment la faute de.
Et je disais, il y a Mae Whitman que j'avais jamais vu nulle part, mais en tout cas, elle va bien avec le trio. Non, mais en fait, ça, franchement, elle s'accorde bien. Et du coup, la dernière est censée être la sœur de Christina Hendricks. Et c'est pareil, ça fonctionne bien. Et donc, elles sont toutes mères de famille et elles ont toutes une raison d'aller braquer ce supermarché. Donc en fait, Bess, c'est parce que elle apprend qu'elle se fait tromper par son mari et qu'il a clairement perdu tout leur argent parce qu'il offrait des bijoux et des trucs super chers à sa maîtresse. Sympa.
Maîtresse.
Ouais, ses maîtresses, c'est vrai qu'il y en a plusieurs. Enfin, elle ne le sait pas au début, mais il y en a plusieurs. Et Ruby, sa fille est malade. Je crois qu'elle a une grosse maladie et du coup, elle n'arrive pas à payer les frais médicaux. Et la dernière, je ne sais plus son prénom, elle a toujours eu des problèmes d'argent, elle est endettée, et elle, ce qu'elle voudrait, c'est pouvoir récupérer la garde de sa fille et lui offrir plein de choses, quoi. Et donc voilà. Donc c'est comment on arrive à être tellement désespéré que on va braquer une banque avec des faux pistolets, une supérette, avec des faux pistolets et tout ça. Et j'ai trouvé vraiment... Au départ, c'était un peu long, le démarrage, mais finalement, c'était une bonne saison. Et j'ai commencé la saison 2, donc je vous en parlerai plus tard.
On peut passer à la suite. avec Sex Education, puisque Damien, tu as commencé oui. cette série avec un peu de retard.
On en avait déjà parlé avant, mais du coup, j'avais quand même donné mon avis. Du coup, moi, j'ai regardé la saison 1 qui est sortie en janvier 2019 et qui comportait 8 épisodes d'environ 50 minutes qui étaient sortis sur Netflix. J'ai refait un résumé rapide au cas où il y aurait des gens qui auraient oublié. Donc, c'est Otis qui est un lycéen de 16 ans qui démarre une nouvelle année au lycée avec son ami Eric. Mais cette nouvelle année va venir avec son lot de nouveautés pour nos deux personnages qui vont faire la rencontre de Maeve et démarrer un business florissant.
Ouh.
C'est moi qui ai fait le résumé.
Ouais, j'aime bien, florissant.
Il est mieux que c'est mieux que les résumés Wikipédia.
Moi, je les trouve pas sur Wikipédia.
J'ai changé aussi.
Elle aussi, mais...
Non.
Et du coup, pour parler un peu plus de la série, moi j'en avais déjà entendu parler depuis pas mal de temps, parce que c'est sorti en 2019, donc ça commence à faire 2 ans. Tout le monde avait l'air plutôt content, mais moi, des bandes annonces que j'avais vues, ça avait l'air surtout provoque et j'avais peur que ça soit un peu vide. Et en fait, ça l'est pas du tout. Les personnages, ils sont très attachants. Dans la première saison, il y avait beaucoup d'humour. Apparemment, c'est pas forcément le cas dans toutes. Mais moi, j'ai bien aimé, du coup, j'aime bien qu'il y ait des blagues. Et toute l'histoire, elle marche vraiment très bien. Il n'y a nulle part quelque chose d'incohérent. Et ça, c'est vraiment bien. Parce que dans une série, ça arrive quand même souvent qu'il y ait des trucs qui se perdent et tout. Et au niveau de comment c'est réalisé, on a vraiment une impression d'immersion dans la tête du perso principal, Otis. Et du coup, d'être un petit peu immergé dans ce lycée où il se passe des choses et... moi j'ai vraiment beaucoup aimé, je pense que je vais regarder les prochaines saisons très très rapidement.
Oui, elles sont encore mieux que la 1, la 1 est vraiment cool, mais les deux suivantes sont encore plus cool.
Ok.
Et il y a un peu d'humour quand même qui reste, mais,
mais déjà en fin de saison 1, je trouvais qu'il y avait moins de blagues et plus de thèmes un peu touchy qui étaient abordés.
Et moi j'aime bien l'esthétique aussi de la série, genre comment ils sont fringués, l'ambiance ou
l'endroit. Alors par contre ça me perd un peu parce que ça a l'air d'être censé être actuel et pourtant du coup il y a plein de trucs qui font un peu anachronique au niveau fringue et tout.
Je pense que c'était un choix, au début en fait ils savaient pas trop, tu vois, ils savaient pas trop où mettre la série, dans quel lieu, ils avaient même pas dit où ça se passait et tout ça. Et plus ça va, et bah ils nous ont dit que maintenant c'était en Angleterre, qu'on était vraiment en 2000...
Ah oui, 20 ou 21,
tu vois. Donc ça évolue et en fait, c'est juste que c'est des gens qui s'habillent, ouais. Ils sont...
C'est la campagne.
Bah, moi, je trouve qu'ils sont stylés.
Oui, mais on dirait vraiment une bande de hipsters.
Oui, oui, on dirait une bande de hipsters.
Du coup, c'est un peu chelou, ça.
Mais c'est léché, quoi. Enfin, ils essaient de leur faire des fringues cool. Visuellement, ça fait cool aussi.
Ça pourrait partir en comédie musicale à tout moment. Et
ouais. Ouais, ouais, je me suis dit ça. Et la maison d'Otis, elle est trop cool.
Oui.
Cette maison-là sur la falaise, enfin, dans la forêt. Trop bien.
Dac, cool. Eh ben, on va rester avec une série cool, puisque Mathilde, tu vas nous parler de On My Block.
On My Block. C'était la saison 4, la dernière des dernières. 10 épisodes.
C'était des rappeurs ?
Non, c'était pas des rappeurs. 10 épisodes de 30 minutes, c'était super court, sérieux. C'est sorti le 4 octobre 2021 sur Netflix et je vous avais parlé des premières saisons dans les anciens récapitos. Je ne sais plus quand. J'ai regardé la 1, la 2 d'affilée, la 3 quand elle était sortie peut-être, et puis la 4, bah, la voilà, maintenant. Et pour rappel, dans un quartier difficile de Los Angeles, l'amitié de 4... ado est mis à l'épreuve quand il rentre au lycée. Voilà, c'était ça.
Toi aussi, tu aurais dû écrire ton propre résumé.
Non, c'est juste que j'ai écrit trop vite. Donc, c'était le grand final. On retrouve la bande des 4 2 ans après, il me semble. En gros, on a laissé la saison 3, il s'est passé 2 ans, enfin, je crois. Je suis pas très sûre. Ils sont tous les 4 en froid, éparpillés un peu partout. Monse est dans son pensionnat. César a repris la tête des Santos, donc qui est le gang dont faisait partie Oscar, qui était son grand frère. Jamal est devenu la star du lycée, et c'est un peu malaisant d'ailleurs. Et Ruby et Jasmine font bande à part et mènent leur petite vie de couple, tranquille dans leur coin. Du coup, cette saison, elle est centrée principalement sur la réconciliation de la bande, la famille, et on retrouve un peu une des quêtes qu'on avait déjà dans la saison 1, qui était sortir César du gang. En gros, César fait partie des Santos, qui est le gang, on va dire, de sa famille, quoi. Et son frère s'est fait éjecter, qui dirigeait le gang, s'est fait éjecter du gang, ils l'ont renié. Et au lieu de laisser ça de côté, et bah, César a dit « Non, moi, je vais reprendre la tête du gang et tout. »
D'accord.
Ce qui n'est pas ouf.
Mais moi, il me semblait vraiment qu'il rappait, par contre.
Non, non, il rappe pas.
Yo-Yo.
C'est pas Harlem. Non, non, il ne rappe pas, désolé. Sinon, j'ai été super triste du sort d'Oscar, parce qu'en fait, Oscar, du coup, c'est le grand frère de... Comment dire,
de César.
Et ouais, ils ont des prénoms trop bizarres. Je trouve. C'est son grand frère, et en gros, c'était lui qui était à la tête du gang. Il décide de partir du gang, donc il commence enfin à avoir une vie normale. Et bah, il rencontre une fille, il tombe amoureux, il a une maison, et il est prêt à être papa. Et au final, bah, ça se passe pas très bien pour lui, quoi. Malgré le fait qu'il est parti du gang, bah, le gang le rattrape, si on peut dire. Et du coup, j'ai
donc
trouvé
quand
ça.
Quand tu dis départ d'Oscar, en fait, c'est un départ.
Non, il est. Non, non, il était de départ. Non, le départ d'Oscar du gang.
Oui, oui.
Mais après, le gang.
Il dit qu'il meurt, mais.
Ah, bah oui, bah. Ah, aussi, après, le gang l'a rattrapé, hein, désolé.
J'étais pas sûr d'avoir.
Et du coup, bah, c'est injuste et c'est triste. Et moi, ça m'a fait trop. Ça, voilà, j'étais vraiment déprimée. Mais je crois qu'en fait, bah, c'est aussi
pas
pour.
Un Disney, quoi.
Ouais, c'est ça, je pense que c'est aussi pour montrer la réalité des choses, tu vois. Dans la saison 1, il y a eu une fusillade, et bah, même si Ruby, qui est un des persos principaux, s'en est sorti, et bah, il y a des gens qui sont morts, dont sa copine, tu vois. Enfin, ils essayent pas de faire que tout est beau. Ouais, ouais, c'est ça, c'est pas tout est beau. C'est, bah, peut-être que Oscar est parti du gang, peut-être qu'on a l'impression qu'il vit son petit conte de fées maintenant. Bah non, ça va pas se passer comme ça, quoi. La réalité va le rattraper. Donc voilà, sinon cette saison, elle était dans le prolongement des autres. Elle était bien, elle était peut-être un peu moins intéressante par rapport aux choses, mais bon, il fallait bien clôturer.
Dernière, du coup.
Ouais, ils pouvaient pas relancer des intrigues, donc ils sont restés sur les intrigues qu'il y avait déjà. Et du coup, 10 épisodes, c'était court, et en même temps, des fois, c'était peut-être un peu trop long, parce que bah, on savait pas trop où ils allaient, où ils voulaient aller, à part le fait de réconcilier tout le monde, quoi. Mais c'était une très bonne série. Et voilà, je suis un peu triste que ça soit terminé. Et j'ai regardé une vidéo sur Netflix, le YouTube de Netflix, qui, en gros, c'est les acteurs qui s'écrivent une lettre pour leur personnage, quoi, pour dire. Voilà ce que cette série m'a apporté, comme une lettre d'adieu à On My Block.
D'accord,
et c'était trop émouvant, et voilà.
C'est bien des fois de finir des choses avant qu'elles soient annulées.
Oui, c'est vrai,
mais c'est vraiment, ils ont... Après, moi, j'aimais bien parce que c'était un peu un pari, cette série, tu vois. C'est des épisodes de 30 minutes, c'est court, et ça parle des gangs, des quartiers difficiles de Los Angeles, et c'est vraiment bien fait. J'en avais déjà parlé il y a dans les récapitos, mais le truc qui m'avait fait marrer dans la saison 1, c'est quand ils entendent des coups de feu, ils savent de quel calibre ça a été tiré, quoi. C'est ça leur vie, en fait, dans leur quartier. Donc,
cool.
Voilà. Bah, je trouve que il faut en parler, parce qu'il y a un moment, bah, eux, ils rigolent de ça, hein, ça les fait trop marrer, mais il y a des gens, bah, qui vivent ça, quoi. Et c'est intéressant d'en parler.
Voilà, très bien. On va enchaîner maintenant avec une autre série qu'on a regardée cette fois tous les trois. C'est une nouveauté. Il s'agit de What If. Personne ne le dit comme ça.
Trois petits points. Tu dis comment, toi?
What if.
C'est vrai qu'ils disent what if.
Non, là, j'ai vraiment dit what if.
Et sinon, on peut la faire en français. Et si.
Ah, il faisait ça du coup dans le. Moi, j'ai regardé en VO.
Oui, ben bah,
le. Disait, et si.
Le gardien disait et si.
Ça doit être beaucoup moins sympa du coup.
C'était la saison 1 qui contient 9 épisodes de 35 minutes à peu près. Ça avait commencé le 11 août 2021, donc ça a duré longtemps.
C'était méga long.
C'était un peu trop long. Ça parlait de. On peut pas commencer cette phrase comme ça, en fait, je m'en rends compte. Alors, le résumé disait What If reprend les scénarios de l'univers Marvel en réorganisant les événements des films de manière inattendue. Plusieurs héros de cet univers sont au centre de la première série animée des studios Marvel. Ça c'est un résumé officiel,
par contre,
ça.
Il faut juste préciser que c'est du coup dans plusieurs univers.
Ouais, et que c'est une série d'animation.
C'est une série d'animation, tout à fait. Eh bien, Mathilde, est-ce que tu peux nous en parler en première?
Oh,
bon,
oui,
eh ben,
Damien,
est-ce que tu peux
non,
nous en...
non,
oui,
non,
moi, je peux. Alors, moi, j'ai trouvé que la série, elle était plutôt inégale, que certains épisodes étaient vraiment bien, mais que d'autres étaient un peu plus ternes, disons qu'il y avait moins de, d'intérêt à l'histoire parce que l'animation est toujours bien. Ils fonctionnent tous plutôt bien ensemble, même si bah, y en a qui sont vraiment un peu connectés avec les autres et il y en a qui sont vraiment tout seuls dans leur coin. Et en fait, ils fonctionnent bien ensemble avec l'épisode de la fin que j'ai trouvé sympa. Sans celui-là, vraiment, ça aurait été bof, quoi. Mais là, ça fait un gros rappel de tout. Mais sans plus, c'était assez convenu au final. Et un peu enfantin. Et par contre, l'animation, elle était vraiment très bien. Et ça a fait patienter en attendant les prochaines séries et films Marvel.
C'est amusant, comme on n'a pas du tout le même avis.
Je suis vraiment pas d'accord aussi.
Sur quoi ?
Moi, je disais que certains épisodes sont mieux que d'autres. Là-dessus, on était d'accord.
Okay.
Mais moi, je disais que mon épisode préféré, c'était le numéro 2. C'était avec celui où T'Challa est en Star-Lord.
Ah, moi, je me souvenais plus, ça fait longtemps que j'ai vu.
Et les autres, et ben en fait, j'ai des.
En fait, t'en as aimé qu'un, c'est ça que tu dis.
Bah non, les autres, il y en a certains que j'ai bien aimé, mais en gros, je pensais qu'il y aurait plus d'histoires différentes déjà, mais qu'en gros, il n'y aurait pas un fil conducteur. Et du coup, moi, j'ai été déçue parce que je pensais juste que c'était des one-shots, quoi.
Moi aussi, au début, je pensais ça.
Et du coup,
tu te rends compte que c'est toujours le même perso quand même.
Oui, mais moi, ça. Oui, mais il peut avoir le maître du temps qui est là pour les observer, mais moi, je pensais vraiment que c'était dans. Genre, il a attrapé un univers, on regarde dedans, et puis hop, on le remet, quoi.
Bah, c'est un peu ce qu'il a fait jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose.
Ouais, mais voilà, moi, j'aime pas le fait qu'il se passe quelque chose.
J'ai pas du tout
aimé ça
non plus.
Je trouve que ça casse totalement l'idée, en fait. C'est et si, ben là en gros, on sait presque si on allait dans un univers parallèle direct et on réécrivait. Enfin, je suis pas d'accord, j'aime pas du tout le principe.
Moi, comment tu peux faire une suite, une saison 2, sachant que t'as déjà eu un climax et une sorte de.
Saison 2, hein.
Enfin, bah ouais, mais c'est.
Ouais, mais l'idée était bien, ils auraient pu en faire,
tu peux faire
50
infinie...
des épisodes.
Ah oui, tu
une
peux les tirer
d'histoire
par contre,
comme
ouais.
ça.
Après, peut-être. Qu'ils n'avaient pas besoin.
Ouais, bah c'est dommage parce que je pense que ça a été apprécié. Enfin, là, j'en sais rien. Mais moi, j'ai bien aimé dans l'ensemble. Je trouvais que l'animation était jolie, même si... Alors, j'y connais rien en animation, mais ça fait vraiment animation facile à faire.
C'est pas vraiment si. L'animation, tout coûte cher. Tout est
ouais, mais je trouve que ça...
Et tout n'est pas facile du tout.
Oui, mais ça fait... dans les pas faciles, c'est les plus faciles.
Je pense que visuellement, c'est peut-être simple, mais...
Ouais, non, mais...
Et du coup, si visuellement c'est simple, ça m'inspire le fait que c'est pas simple à faire.
Enfin, voilà.
Les choses les plus. Ouais, tu sais, c'est comme le less is more. Tu vois, c'est.
The yes need the no to win against the no. Moi, je préférais donc, comme on l'a dit, quand les épisodes étaient indépendants. Et donc j'ai pas hyper apprécié la fin. En plus, c'était vraiment en mode vraie
en mode
série,
méga baston,
méga bagarre. Et puis,
ça
surtout,
n'avait aucun sens. Tous
climax.
Ces personnages qui étaient réunis. Il y en a
oui.
un, il a tué T'Challa dans son univers et il est même pas étonné de le voir là. Et en plus, pourquoi ils lui font confiance alors que c'est un connard dans son
alors,
univers
ils lui font pas super confiance.
Mais je trouve que je trouve qu'en
sens.
Plus,
c'est
ouais, tout va trop vite. Enfin voilà. C'est évidemment ça. C'était pas le but. Mais et pour info mon préf, et ben finalement c'était le premier, l'épisode avec Captain
ah oui.
Carter, celui
ah,
que j'ai
bien.
Préféré. Mais c'était sympa, je suis d'accord avec toi Damien là-dessus, c'était cool, ça faisait une petite transition entre des grosses séries qui apportent beaucoup
non,
de choses
oui.
à l'univers. C'était bien. Est-ce qu'on passe à la suite ?
Yeah.
Yay.
Et ben Mathilde, tu vas nous parler d'une série qui s'appelle Sexy Beasts.
Ah, c'est pas très intéressant, mais c'est très amusant.
Tu peux nous en parler très vite alors.
Ça s'appelle...
Après, on en a tous vu un peu, non du coup.
Ouais, ça s'appelle. Mais je veux votre avis. Ça s'appelle Sexy Beasts.
J'ai vu, moi.
Bah, oui, oui. Si
j'ai regardé la saison 1 et 2, mais en vrai, je suis même pas vraiment sûre d'avoir regardé la saison.
Ah oui, il y avait un débat.
Enfin, en gros, c'est très
t'as
bizarre.
Vu une des saisons,
j'ai vu, je pense que j'ai vu la 2 et j'ai vu le début de la 1, et après, j'ai
ah
vu
oui,
la 1
oh là là,
était pas
oui, pardon.
Ouf.
Ah oui,
c'est sorti. Le 4 octobre 2021 ? Non, c'est pas la bonne date, ça. C'est sorti je sais pas quand. Le résumé, lassé des rencontres superficielles d'authentiques célibataires, décide de changer d'apparence grâce à un maquillage élaboré pour voir si le charme opère malgré tout. En fait, le but de... Enfin, déjà, expliquons comment je me suis retrouvée à regarder
allons-y.
Parce que c'est quand même important.
Parce que moi, je vois les vignettes, jamais je clique. Hein.
J'ai lancé cette série
moi,
suite à une story...
Vignettes.
Oh, ça va, ouais. J'ai lancé cette série suite à une story de Insta de Magla, donc qui est une fille qui... Enfin, qui est sur Twitch, je sais pas si vous la connaissez. Et en gros, elle regardait ça et donc je suis tombée sur les maquillages principalement. On voyait les gens maquillés et je suis tombée genre sur des gens qui étaient en train de faire la cuisine avec des maquillages super chelous et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi. Et donc j'ai eu envie de regarder. Le principe c'est que les célibataires sont maquillés, déguisés pour leur date et voilà, c'est ça le principe. Et donc ils se rencontrent et ils ont vraiment des têtes incroyables. Donc,
ça aurait pu être vraiment bien s'ils avaient aussi fait un focus sur les maquilleurs.
Ouais, c'est vrai, c'est ce que je me suis dit aussi. Mais je me suis demandé si c'était pas lié à une autre série
ça
Netflix.
Ça brise les carrières de faire du maquillage comme ça.
Quoi ?
Tu crois ?
Mais non, tu rigoles ou pas ? Ils sont trop bien faits.
Hein.
Et en fait, la série, ce qui est plutôt mal fait par contre, c'est que la série s'appuie sur le fait que les maquillages font que les dates ne s'appuient pas sur le physique, mais clairement.
C'est la meilleure blague,
ça. C'est totalement raté. Enfin, dans la saison 2, ça allait encore. Moi, bizarrement, Netflix a lancé la saison 2 d'abord. Et donc, ça allait. Mais dans la saison 1. Non mais les gars, ils parlaient que des physiques des filles et inversement.
Et ce qui est très drôle, c'est qu'effectivement, ça parle pas trop de physique tant que les gens étaient maquillés.
Oh, c'est pas vrai ça.
Et dès qu'il y a plus de masque, alors là c'est « Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, je suis trop deg de pas l'avoir choisie. Elle est magnifique. »
Non, non, même avec les masques, hein, y a un mec qui était là, il fait « Oh là là, elle est bien, les formes et tout. »
Ah oui, c'est même pire parce que du coup, c'est que le corps, c'est même plus
oh
le visage.
Oh là là, mec, tais-toi. Mais en tout cas, voilà, ça c'était vraiment nul. Ça n'a pas grand intérêt au niveau tout ce que vous voulez, documentaire, sociologique
tout
ou ce que vous voulez.
Intérêt,
ouais, non, ça n'a aucun intérêt à regarder. Hein. Mais les maquillages, par contre, sont super bien faits. Et voilà, c'est parfois très flippant.
C'est les cachets d'intermittent des maquilleurs Netflix qui ne savaient pas quoi faire.
Mais non, je vraiment, me suis demandé si c'était pas. Il y a d'autres séries spéciales
c'est pas
sur les maquillages.
En plus. Non.
Mais voilà. J'ai fini.
Non, c'est.
je ne veux plus en parler.
C'est un cauchemar. Hein.
Oh,
t'as quand même regardé.
Non, vraiment.
T'as vraiment regardé
oui,
genre
non,
plein
non,
d'épisodes
non,
avec
c'est
nous.
Un cauchemar dans le sens où les costumes sont horribles. Ah. Enfin, les gens sont terrifiants.
Moi,
c'est
j'en
trop
avais
bien
vu
fait.
Une
Moi,
en
vu,
mouche.
Même qui était de toute façon pas.
Ah, bah, y a,
ah non,
les valeurs sont un peu dégueu.
Les gens sont castés d'une façon, oui, valeurs pas ouf, oui. Et puis des fois, ils font des rencarts où il y en a un qui est anglais et l'autre qui est américain. Et moi, je me dis, ouais, ils vont faire comment pour vivre ensemble, ces gens?
Bah, alors ça c'est possible hein, parce que vraiment il y a des avions qui.
Non mais ça va, arrêtez, stop les conneries, on arrête, voilà.
On arrête d'en parler, okay. Je veux plus jamais penser à ce truc-là. J'avais déjà réussi à oublier.
C'est vrai que t'avais un peu.
C'est vrai que t'es en train de dire, moi j'ai jamais regardé ça.
De quoi vous parlez,
mec, à côté.
Pour oublier, on va écouter une bande-annonce.
Mon mari est mort l'année dernière. Et j'ai emménagé avec mes enfants dans la maison où il a grandi. Mes enfants, ils vont très bien. Mais à cause de ces choses qui n'ont aucun sens, je n'avance pas. Tu me le dirais, toi, s'il se passait quelque chose d'étrange.
Sous prétexte qu'on a trouvé quelques clés, on croit qu'on sait tout sur tout.
On sait pas tout, mais on sait que Dodge est morte.
Pourquoi avoir créé Gay ? Parce que je sais que personne ne se méfiera jamais de ce petit intello gringalet qui compte fleurette à Kinsey Lock. J'ai été clair. Excellent.
Ce monde a tellement de potentiel. Vous pouvez renaître, vous pouvez être asservi. Il est temps que je finisse ce que j'ai commencé.
Tu crois que tu vas y arriver ?
T'es prête ?
Les clés, elles peuvent faire le bien. Ou créer le mal à l'état pur. Et ça, c'est à toi de le décider.
Alors maintenant, à nous de jouer. Il faut que tout ça s'arrête.
Tu l'as.
Tyler ! Non !
C'était la bande-annonce de la saison 2 de Lock and Key que Mathilde, tu as regardé.
Oui, j'ai regardé la saison 2 qui faisait 10 épisodes de 50 minutes environ. C'est sorti le 22 octobre 2021 sur Netflix. Donc c'est une nouveauté. Enfin, nouveauté, nouvelle saison, quoi. Après le meurtre, pour rappel, parce que du coup, je sais pas si vous connaissez cette série.
Moi, je m'en souviens plus, mais j'ai vu la première saison.
Ah, alors, après le meurtre de leur père, trois enfants emménagent avec leur mère dans leur maison de famille où ils découvrent des clés magiques au pouvoir extraordinaire.
Ça, c'est le résumé de la première saison.
Ouais, mais c'est toujours...
Enfin, c'est le début de la première.
Ouais, c'est ça.
On dirait la version amusante de The Haunting of Hill House.
Mais tu veux rire, mais...
La...
Mais
pas du tout amusant, normalement, à la base. Mais...
De quoi?
Lock and Key,
non, les comics sont pas du tout comme ça. Mais par contre, je crois que c'est les mêmes personnes qui font.
Alors, je vais regarder en
direct.
Je dis à la fin. Vas-y, continue, je t'en prie, je fact-check en direct.
Non, mais j'ai fait un article sur Plaid là-dessus.
De toi, en fait, c'est ce que tu dis.
Ouais, je suis presque persuadée que, en tout cas, les décors et la maison qui est très ressemblante à celle de l'autre série.
C'est dans le même univers, peut-être.
Bah, c'est pas dans le même univers, mais je crois qu'il y avait un lien vraiment fort entre les deux séries. Donc, il suffit d'aller sur Plaid et de regarder l'article en question.
Allons-y.
Et du coup, en attendant, je continue. Je me rappelais pas beaucoup de la saison 1, alors que j'avais vraiment... je me rappelle que j'avais adoré, enfin, j'avais vraiment aimé beaucoup. Et le récap de Netflix m'a clairement pas suffi à me remettre dans le jus, donc j'ai regardé un peu les épisodes en avance rapide. Enfin, ça veut dire que je lance un épisode, j'avance plein de fois, et je vais... Ah oui, attends, ça je me rappelle plus.
Et t'arrives à te repérer en faisant ça?
Et ouais, j'arrive. Okay. Donc c'était ma mémoire. Hop, elle est revenue.
Sur Netflix, ça a du x1.5 ou des trucs comme ça aussi.
Ouais, ben non, moi j'ai fait ça. Donc on retrouve la petite famille Deloc qui pense s'être débarrassée de la méchante Dodge, qui était l'écho. Qui était dans le puits. Jusqu'à là, tu me suis?
Grave.
Ok. Mais bien évidemment, ce n'est pas le cas. Donc, ils ont affaire à un nouveau méchant, qui n'est pas vraiment nouveau au final, vu qu'il s'agit de Dodge. Sauf que Dodge se fait passer ou est dans le corps de Gabe. Tu vois qui c'est, Gabe? Ouais. C'est Griffin Gluck.
Bah, bien sûr, je vois beaucoup mieux qui
c'est. C'est le copain de Kinsey. C'est le copain de Kinsey, en fait, à la fin. C'est le mec qui est déguisé en crabe.
Ah oui, quoi? Ok, c'est un méchant lui.
Et bah, il s'avère qu'en fait, oui, c'est un méchant. Voilà le petit souci. Enfin, c'est pas un gros souci, mais en fait, le problème, c'est que moi, je me suis vraiment attachée à ce perso. Enfin, j'aimais bien ce perso dans la saison 1. Et du coup, j'ai vraiment eu du mal à le voir comme un méchant pendant toute la saison. Je savais que c'était Dodge, je savais qu'il était méchant, mais à chaque fois, j'étais là. Mais peut-être qu'en fait. C'est un être humain, que Dodge elle a pris son corps, mais qu'en fait il est quand même humain. Mais non, non, pas du tout. Il n'y a pas ça. C'est Dodge, donc c'est un méchant. Et du coup, bah, il s'était perdu d'avance, tu vois, pour lui. Il pouvait.
La chanson d'Orelsan.
Non, mais c'était perdu d'avance dans le sens où il était méchant jusqu'au bout, tu vois. Tu pouvais pas le sauver, ce Gabe. Il était méchant.
Il pouvait pas re-inverser de corps? Parce mais qu'on non, a en vu fait... des films où des fois ils réussissent à réinverser.
Ouais, mais en fait, Gabe est un humain que Dodge a imaginé. Il n'existe pas, ce perso, dans la vraie vie.
Ah bon.
Donc en fait, elle est lui depuis la saison 1.
Oh là 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 là. Ok, d'accord.
Oh ouais. Oui, ça remet tout en perspective. Je sais plus. Donc voilà, j'ai bien aimé cette saison et il y a une thématique qui m'a un peu. Enfin, elle m'a émue, si je peux dire. C'est le fait de perdre la mémoire ou de garder en mémoire, en fait, la magie ou non. C'est une thématique qu'on a pas mal où on dit les adultes, ils oublient la magie ou ils voient pas la magie. Et du coup, là, c'est ça. C'est Tyler, qui est le grand frère, qui va avoir 18 ans. Et en fait, il s'aperçoit que le jour où il va avoir ses 18 ans, il va oublier la magie des clés. Et donc après, il a un choix à faire. C'est est-ce qu'il veut se rappeler ou est-ce qu'il veut oublier?
Pourquoi est-ce qu'il doit choisir ça?
Il peut, en fait, normalement, il n'est pas censé choisir parce que, par exemple, la mère des Locks, elle oublie toute la magie tout le temps. Mais en fait, dans cette saison, il trouve un moyen qui fait qu'ils peuvent garder en mémoire la magie.
Ah, oui.
Et donc
coup,
là, lui, il se pose la question. Sauf que dans cette saison, il se passe beaucoup de choses et il se passe, enfin, comme on nous l'apprend, en fait, la magie, il y a du positif, mais il y a aussi du négatif, hein. Il y a des gens qui meurent, il se passe des choses atroces, et du coup, la question, c'est est-ce que tu veux te rappeler des choses merveilleuses que la magie t'a apporté, mais les trucs merveilleux, c'est peut-être 5% pour 95% d'horreur, tu vois, enfin. Et donc, voilà. Et moi, j'aime bien cette thématique du fait de... Enfin, ça fait vraiment genre tu grandis et du coup, t'es plus assez innocent pour voir la magie. Je trouvais ça pas mal du tout. Par contre, j'ai eu l'impression que l'histoire dans cette saison, elle avançait pas énormément. Genre, c'était 10 épisodes, mais à la fin des 10 épisodes, je me suis dit « Ouais, bah, ils ont vaincu le méchant. Ok. Mais à part ça, on a... Enfin... Je sais pas, l'histoire, j'avais l'impression qu'elle avait pas... Enfin, ça avait pas apporté énormément de choses, tu vois, genre, par rapport au début de la saison. Ils étaient un petit peu... au même point, quoi. On n'a pas de réponse, en fait, par exemple, sur des choses qui sont passées, sur l'histoire des Locke, ou des choses comme ça, qui seraient super intéressantes. Là, c'est un petit peu laissé à l'abandon. En fait, il y a de l'action. Bah, peut-être, on verra. C'est ce que je disais, hâte de voir la suite, s'il y en a une, bien évidemment.
Pour info, c'est pas du tout les mêmes personnes qui ont créé la série.
Mais je parlais juste des décors.
Ah. J'ai pas trop l'impression que ça soit au même endroit non plus.
Mais j'ai pas parlé du même endroit. Hein. Je disais juste que la personne qui s'occupe des décors...
Il avait la même lettre dans son prénom.
Laissez-moi tranquille. Je cherche du coup. Je ne sais pas pour vous, mais Key House m'a beaucoup fait penser à Hill House, cette grande maison remplie de secrets inquiétants aux couleurs sombres. Cette similarité des décors est liée au fait que Meredith Averill a travaillé sur les deux projets, et c'est un élément que j'ai beaucoup apprécié. Visuellement, cette maison est incroyable, on a toujours l'impression qu'il va se passer quelque chose ou qu'une porte va s'ouvrir sur un monde magique. D'ailleurs, Body parle souvent de Narnia dans la série, il espère ouvrir une porte vers un monde fantastique. Donc, il y a bien Meredith Avery qui a bossé sur les deux projets.
D'accord.
Bien joué.
Au moins, comme ça, on est précis sur cette histoire. Maintenant que cette page est close, on peut passer à une série d'animation que Damien et Mathilde, vous avez regardée. C'est Chasseurs de Trolls.
Damien l'a regardé il y a longtemps, non ?
Moi, j'ai regardé il y a à peu près 8 ans. Non, c'est pas vrai, parce que c'est sorti il y a moins longtemps que ça. Si on n'a pas noté la date de sortie.
Non, je sais plus quand c'est sorti. Mais moi, j'ai regardé la saison 2, la moitié de la saison 2 il y a longtemps. Et là, en gros, j'ai regardé la fin de la saison 2 et la saison 3. Pour rappel, rappelons-le. C'est sur Netflix. Jimmy Dulac, un adolescent de 15 ans, découvre une amulette magique qui lui donne le titre de Trollhunter. Un défenseur des trolls qui vivent en dessous d'une ville humaine nommée Arcadia. Je me suis toujours demandé pourquoi on appelle ça chasseur de trolls alors qu'il ne tue pas les trolls. Ok. Bah, ok. Donc, moi, j'avais beaucoup adoré la saison 1. Ça montrait le story... comment on dit
l'origine story.
Ouais, voilà. L'origine story. Bah bon, c'est marqué, je n'arrive pas à le dire. De Jimmy et de sa bande d'amis. Bien évidemment, plus on se rapprochait de la fin, plus la série devenait mature et c'était super de voir l'évolution des personnages. La série se conclut sur un dénouement plutôt heureux. Enfin, je parle de la saison 2-3 là. Enfin, 3 plutôt. Plutôt heureux, même si le sacrifice de Jimmy pour gagner me semble triste. Je sais pas si tu te rappelles, mais dans cette saison, il se fait clairement transformer en troll, quoi. Enfin. En mi-troll, mi-humain, quoi.
Je m'en rappelle.
Et du coup, moi, j'étais en mode, vous allez le laisser comme ça. En mode, ok, on y va.
Bon, c'est un sacrifice.
Bien évidemment, j'ai bien compris que l'histoire continue. Enfin, dans le sens où, c'est une histoire qui se prolonge avec les extraterrestres, là. Et surtout avec le magicien.
Les extraterrestres, là, c'est mélangé. Hein. Ça ne vient pas à la suite.
Ouais, ouais.
C'est un peu.
Et le magicien. Attends, parce que du coup, moi, j'ai voulu voir un peu la suite. Mais j'avais pas vu les extraterrestres, donc je me suis dit, attends, je vais regarder les extraterrestres après. Mais j'ai eu la bonne idée de lancer l'épisode du magicien.
Ah, mais t'aurais pas dû du tout.
Mais non, j'aurais pas dû. C'est pour ça que j'ai arrêté en plein milieu en mode, mais attends, je suis en train de me spoiler des trucs.
Mais comment il faut faire alors pour faire les choses bien ?
Il faut faire saison 1 de Trollhunter, saison 2 de Trollhunter,
les extraterrestres.
Saison 1 des extraterrestres.
Ça s'appelle vraiment les extraterrestres ?
Non. Saison 3 de Trollhunter. Saison 2 des extraterrestres.
Ouais. Et ensuite le magicien.
Après le magicien et après le grand film.
Mais j'avoue que c'est un peu compliqué quand même.
Ça a l'air compliqué cette histoire.
Ouais.
C'est parce que sinon tu te spoiles des bouts de toute façon. Donc c'est un peu
du horrible. Coup là en fait moi j'ai lancé le magicien mais du coup je me suis dit attends, le mec qui a des mèches bleues qui arrête pas de draguer la copine de Jimmy pendant tout ce truc, c'est un magicien et en plus il connaît Merlin.
j'étais genre...
Ah, si y a Merlin.
Oh là 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 là.
Ouais, il y a Merlin.
Bah, en fait, c'est tiré de... Enfin, Jimmy, en fait, c'est un peu le Arthur, quoi. C'est là, un peu, c'est un peu une légende d'Arthur remaniée, quoi.
C'est dans la légende arthurienne, mais c'est pas, il est pas trop Arthur.
Oui, mais c'est, enfin, c'est pas lui qui est Arthur, mais tu vois, il a une armure, il a une épée magique.
Ouais, ouais, ouais.
Bah, et il y a Merlin.
Il donne des pouvoirs.
Et voilà. Et il y a aussi la méchante fée. Morgane, elle était là aussi là, dans Chasseur de trolls. Donc c'est quand même un peu relié.
Non, mais c'est clairement dans la légende arthurienne.
Mmh. Voilà. Donc bah, je vais continuer à regarder les extraterrestres. Et après, je regarderai le magicien. Et après, je regarderai le film. Mmh. Donc, je pense qu'on se revoit dans 6 mois.
Non, il n'y en a pas pour si longtemps que ça. Et est-ce qu'il y a une citation que tu as bien aimée?
Oui. C'est incroyable. C'est dans le dernier épisode de Chasseur de trolls. C'est Jimmy. Enfin, c'est Jimmy, oui, qui dit « Le destin est un don. N'oublie jamais que la peur est le précurseur du courage. » Et que si tu veux un jour lutter et triompher à la face de cette peur, alors tu deviendras un véritable héros. Ne réfléchis pas, deviens.
Oui, c'est vrai que c'est quand même le gros thème du dessin animé, de dire que c'est une espèce de petite mauviette pas très efficace au début et qui peut faire des choses quand même.
C'est ça.
Mauviette pas dans un sens péjoratif, dans le sens...
Mauviette dans flippette. Le... Ouais, oui. C'est... En gros, il ose même pas aller voir la fille dont il est amoureux. Enfin, c'est pas que physiquement...
Le nul.
Tu vois.
Je trouve que dans ces cas-là, on est une majorité comme ça.
Non, mais en gros, voilà, ne réfléchis pas. Deviens. Mais c'est... Il le dit avec une voix mieux. Désolé.
Une voix de Monsieur Sage.
Presque de... Il est déjà en troll ou pas?
Oui, bah c'est à la fin.
Donc il le dit avec une voix très grave.
Mais en fait, c'est une réplique qui est deux fois dans les épisodes parce qu'elle est au moment où il tombe, quand il est humain et qu'il va devenir un troll. C'est une voix qui lui dit ça et à la fin, il le redit dans le dernier épisode quand il s'en va avec les autres trolls. Voilà. C'était très bien.
Emilien, t'as pas l'air d'avoir été passionné par cette histoire de troll.
Mais en fait, j'ai vu des bouts et je comprends que c'est de bonne qualité parce que c'est une série d'animation qui avait l'air chouette. Puis c'est Guillermo del Toro qui est à la manœuvre, donc c'est bien.
C'est fait par DreamWorks en plus, donc c'est pas mal.
Mais j'ai jamais regardé. Eh ben, on va pas laisser ce blanc comme ça, on va passer à la suite. Mathilde et moi, on a regardé Charmed, la nouvelle série, le remake. C'est dispo sur Salto.
Est-ce qu'elles sont dans la même maison?
Non.
Ok.
Il y a une saison.
Est-ce que c'est quand même à San Francisco?
Non.
Non. Il y a 3 saisons.
Ça... Oui, il y a 3 saisons, mais on a regardé la saison 1. Il y a 22 épisodes de 45 minutes. Et sur Salto, il n'y a qu'une saison d'ailleurs actuellement.
Est-ce qu'il y a toujours le grimoire?
Oui, en 2018. Et le résumé est qu'après la mort de leur mère, Mel, Maggie et Macy, 3 sœurs vivant dans un immense... Non, dans une ville universitaire, découvre qu'elles sont des sorcières. Entre démons à massacrer, le patriarcat à combattre et les liens familiaux à maintenir intact, le boulot d'une sorcière n'est jamais terminé. Il est de qui ce synopsis?
TV Showtime.
Ouais, il est pas mal. Voilà. Je commence ou tu commences?
Vas-y.
Eh ben moi, j'ai trouvé que c'était une bonne surprise. Je me souviens, quand on avait regardé la bande-annonce, qui était dégueulasse. Vraiment, elle était horrible. Tu te souviens?
Non.
Ben moi, je m'en rappelle, c'était affreux. Et ça laissait imaginer un remake kitsch et catastrophique et très opportuniste. Et au final, je crois que je préfère cette version. Parce qu'il y a quelques mois, on avait regardé toute la première série. Et il y avait plein de problèmes. C'était hyper problématique.
Ben, c'est parce que la date, mais c'est comme tout. Tu regardes... Moi, je regarde un... Ben, on en parlera après, mais Vampire Diaries, c'est aussi problématique.
Mais c'était problématique à l'époque. Donc, c'est différent encore.
Ben, là aussi, Charmed, c'était problématique à l'époque, sauf que personne ne s'en rendait compte.
Je suis pas sûr. Franchement, la réputation de Charmed, au moment où ça passait, elle était bonne. La réputation de Vampire Diaries, ça n'a jamais été...
Je crois que t'es trop méchant parce que t'es en train de détester cette série, mais elle était très bien, cette série.
Je méchant, mais en France, Charmed... est plus connu que Vampire Diaries juste en termes de parce que ça a eu la chance d'être diffusé la trilogie du samedi, ouais. Alors que Vampire Diaries a pas une diffusion à la télé super cool qui lui a permis de autant briller. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire sans vouloir juger la qualité des séries.
Tu veux pas donner ton avis?
Non mais je peux pas donner, j'ai jamais vu Vampire Diaries. Donc voilà.
Mais t'as déjà entendu des T'entends des bouts de dialogue, comme Mathilde.
Oui, je vois des hommes loups-garous qui sont dark.
Bon, on n'en parle pas maintenant, c'est plus tard.
Et donc, on parle même, de Charmed. Donc, je préfère cette version de Charmed, même si, pour l'instant, ça n'a pas du tout le potentiel culte de la première série. Déjà, je galère toujours à retenir le nom des sœurs. Alors que vraiment,
c'est
3M, mais elles ont pas de nom de famille. Alors que vraiment, les sœurs Halliwell, je pense que la
Terre. Si elles ont un nom de famille.
Oui, mais on le dit jamais.
Si c'est les Vera, je sais plus quoi.
Bah voilà, les Vera, je sais plus quoi.
Mais
alors
non,
que
mais
les
si,
sœurs
si,
Halliwell,
mais si elles le disent, mais
ça sort d'un coup. Et même, on les appelle jamais comme ça. On les appelle les ensorceuses, les ensorceleuses. Alors que
le nouveau.
Oui. Ouais, alors qu'avant c'était les sœurs Halliwell quoi. C'était vraiment les trois meufs hyper badass. Bon, évidemment c'est une version modernisée. Les personnages sont hispaniques, vegan, féministes, LGBT.
À moitié vegan.
Ah oui. Bon, la meuf elle est à moitié vegan.
Une semaine sur deux.
Bah une semaine sur deux. Et puis bon, ça se trouve c'est de la fausse fourrure, mais la meuf a tout le temps de la laine ou de la fourrure sur le dos. Enfin bref, elles sont la représentation de la diversité de la population. Donc là-dessus, c'est déjà plus engagé que la première série notamment.
Bon, il y avait des femmes.
Ouais, mais c'est s'arrêter là en fait. Elles étaient hyper sexualisées, elles parlaient que de mecs tout le temps, elles étaient hétérosexuelles, elles étaient blanches. Voilà, il y avait vraiment aucune représentativité de minorité. Pour revenir à la série, le lore est... J'ai trouvé qu'il était inspiré des séries fantastiques qu'on a eues ces dernières années. Il y a une grosse influence, j'ai noté par exemple de Sabrina ou de Vampire Diaries dont on parlait, pour ne citer qu'elle, parce que je suis vraiment pas un spécialiste de ce genre-là. Après, on pourrait s'amuser à comparer les deux versions, mais j'ai trouvé que la série était assez intelligente pour ne pas rentrer dans ce jeu-là et à se limiter à quelques trucs subtils. Y a pas la nouvelle Piper, la nouvelle Prue ou la nouvelle Phoebe, tu vois, c'est vraiment trois filles qui ont leur caractère à elles et y a pas trop de trucs à part, tu vois, c'est Mel, on va dire, la deuxième, elle est barman et Piper tenait un club, tu vois, c'est vraiment aussi c'est subtil, c'est très fin, très, donc on peut pas trop jouer à ça. Mais il y a quand même un problème que j'ai, qui m'énerve un peu, c'est qu'il y a beaucoup trop d'effets After Effects où ça brille, ça fait un peu grossier.
C'est kitsch.
Ouais, mais c'est le genre, ces séries-là sont dans des genres qui kitsch et ça marche bien.
Ouais, mais j'ai pas trop. Enfin, moi j'aime pas en fait. Je trouve que c'est moche plutôt que kitsch. Et puis des fois même on se dit mais il s'est passé quoi là, on voit un truc, il y a un truc qui brille, un effet, on se dit mais il s'est passé quoi, enfin on dirait que c'est du chaudron tel mal fait. Voilà, donc des fois il faut mieux dire les choses.
Est-ce qu'il y a un petit blondinet qui vient les sauver tout le temps dès qu'ils sont dans la
non
main? D'accord.
Moi j'ai trouvé que un des points négatifs c'est que c'est des grosses saisons, on est vraiment dans un format l'ancienne. Encore, on est à 22 épisodes de environ 45 minutes, c'est long, c'est vraiment très très
beaucoup,
long.
Hein.
Ouais, ça
et
fait
c'est
beaucoup.
Il y a une histoire globale où chaque série raconte sa petite histoire ou c'est...
Ouais, je crois qu'il nous manque un ou deux épisodes
justement,
pour finir la saison.
Justement, il y a un fil rouge. Où je vois que Mathilde, tu l'as noté, mais il y a un ou plusieurs fils rouges.
Ouais, ça c'est un autre...
Mais t'as pas de filler, voilà, en tout cas, c'est ça que je voulais dire.
Donc ça fait beaucoup d'épisodes et moi j'ai trouvé que cette version est sympa, elle est moderne, mais parfois j'ai vraiment l'impression que c'est trop, tu vois. Ils vont trop, genre
oui aussi, ouais.
Ils essaient d'être trop féministes et du coup ça fait presque du mauvais féminisme. Enfin, c'est vraiment, par exemple, t'as l'impression que les deux filles qui sont le plus féministes dans la série, elles sont homosexuelles et t'as l'impression que les autres filles, du coup, elles font pas assez bien. Enfin, presque, faut détester les hommes pour être féministe.
La sœur qui est gay,
Mel,
elle est presque, ouais...
Elle est presque beaucoup trop. Enfin, elle est presque trop, tu vois. Elle est vraiment presque...
Et surtout, elle est un peu donneuse de leçons sur le féminisme à ses sœurs, qui sont moins engagées dans son combat et hétérosexuelles, tout simplement.
Et du coup, ça, je trouve que c'est pas top. Et puis même, quand on dit, genre, elle est végane une semaine sur deux...
Ça se fout un peu de la gueule des végans.
Ouais, je trouve que des fois, c'est presque... Enfin, c'est tellement trop que t'as l'impression que c'est un peu une caricature de la réalité, quoi. Donc ça, c'est...
Oui, je l'ai un peu présenté sous un beau jour, mais effectivement, il y a un peu des panneaux clignotants en disant « Eh, regardez ! Là, on est engagé LGBT. »
Ouais, mais c'est
après,
ça, ouais.
Elle, on est engagé... une autre minorité ou un autre combat.
Ouais, et puis par exemple, là, dans les derniers épisodes qu'on a vus, c'est comment elle s'appelle, Maggie, qui découvre qu'en fait son papa est noir, et du coup, elle se met à. Bah, elle est d'origine hispanique, je pense, à la base.
Oui, leur mère est hispanique.
Leur mère est hispanique, et du coup.
Elle connaissait pas leur père, du coup.
Non, elle connaissait. Bah, elle savait pas que c'était. Si, elle pensait qu'elle avait un autre père, en fait.
Oui, bon, si on te raconte comme ça, tu vas dire c'est quoi ces conneries.
Ouais, mais.
Non, mais c'est-à-dire que si tu dis juste qu'elle se rend compte que son papa est noir, on dirait que son papa est
en fait, elles n'ont jamais connu leur.
Non, c'est que.
Elles avaient. Ouais, pardon, vas-y, dis.
Il y a Maggie qui est. C'est ça. Maggie, qui est leur sœur aînée. Elle vivait pas avec elle, en fait. Elle est issue d'une première union. Mmh. Et en gros, les deux suivantes sont issues d'une seconde union. Mmh. Mais il s'avère qu'en fait, il y en a une des deux qui a le père de la première. En gros, sa mère a trompé...
Ouais, c'est pas cool.
Non, c'est pas cool du tout. Vu comme ça, c'est pas cool. Mais du coup, elle se rend compte que son père, bah, c'est pas son père. Et que son père, c'est le père de Maggie, qui est d'origine, enfin qui est noire. Et du coup, par exemple, quand elle fait une demande de bourse, et ben elle doit choisir, je sais pas pourquoi, mais aux États-Unis apparemment, quand tu demandes une bourse, ils te demandent tes origines. Donc là, elle clique sur hispanique, quoi, c'est ce qu'elle met d'habitude, et là elle rajoute africain aussi, enfin d'origine africaine, avec j'en sais rien, tu vois, enfin ce que ça implique. Et du coup, et ben ça lui ouvre des bourses. Et moi, je trouve ça ouf. Déjà, qui demande ce genre de choses, mais c'est, je sais que c'est de la, comment dire, la discrimination positive.
T'as pas le droit, je crois, de toute façon.
Ouais, on appelle ça de la discrimination positive. C'est en gros, si t'es issu d'une minorité, et bah, tu peux avoir des bourses ou des choses comme ça. Ça n'existe pas en France, mais là-bas, ça existe. Et du coup, bah, ils en parlent beaucoup, tu vois. Mais vraiment, ils insistent là-dessus.
Il y a tout un épisode fortement. Qui est que là-dessus.
Et c'est peut-être trop, en fait, tu vois. Et ouais, du coup.
Bah après, j'ai pas vu, mais juste dit comme ça, ça. Enfin, en fait, il y a tellement eu l'inverse que ça paraît pas si mal qu'il y ait des séries.
Oui, c'est ça, en fait. C'est ça, en fait. C'est comme si la série, en fait, elle s'excusait de la première version, tu vois. Elle dit, on prend la première version.
La première saison.
Et on s'excuse pour tout ce qu'on a fait avant, et on dit, bah non, maintenant, nous, notre version de Charm, ça sera ça. Après, si les nouvelles générations découvrent Charm avec cette version-là, c'est très bien. Hein, moi, je vais pas au contraire, quoi, c'est mieux. Et le dernier point un peu négatif, c'est qu'au niveau du scénario, ça va un peu dans tous les sens. Ça rend l'histoire parfois vraiment incompréhensible. Alors, il se passe un truc, il se passe un autre truc, et du coup, personnellement, moi, je savais pas du tout où ils voulaient en venir parce que les liens ne se faisaient pas, tu vois. Ils allaient tellement partout que moi, je disais, oh là là, mais quoi ? Elle est méchante, elle ? Ah, c'est une gentille ? Attends, mais. Quoi ? Et c'est un peu vraiment un casse-tête chinois.
À la fin, ou pas ?
Bah, je sais pas, il nous reste deux épisodes, donc on le dira pour la
saison. On parle d'une série alors que vous avez pas tout vu, qu'est-ce
bah,
que
oui,
c'est que
oui,
ce bazar ?
Mais bon, 22 épisodes, enfin.
On a commencé il y a 4 mois quand même.
Ouais.
Rien
de... Donc non, mais,
oui, mais alors là, c'est
non,
cool.
Mais c'était... en tout cas, c'est que ça a marché vu qu'il y a deux autres saisons et je crois que c'est toujours. Enfin, ça continue toujours, donc. C'est que ça marche bien.
Grave.
On va rester dans le fantastique et Mathilde, tu vas clôturer cette section série avec justement Vampire Diaries.
Je ne veux pas d'insultes. Damien, calme-toi.
Non, mais moi, globalement, ça m'amuse plus qu'autre chose, en fait. C'est pas...
Eh bah, amusons-nous. Alors, on va parler de Vampire Diaries. J'ai regardé la saison 1, donc, qui fait également 22 épisodes. Donc, c'est une série qui date de 2009. Donc, voilà, 2009, 22 épisodes. 2018 pour la série d'avant... 22 épisodes aussi, donc on est dans des formats vraiment vieillissants, si je peux dire. Donc des intrigues à rallonge, clairement. Et Vampire Diaries, vous trouverez ça actuellement sur Prime Video. Pour rappel, 4 mois après le tragique accident de voiture qui a tué leurs parents, Elena, 17 ans, et son frère Jérémy, 15 ans, essaient encore de s'adapter à cette nouvelle réalité. Belle et populaire, Elena... poursuit ses études au lycée de Mystic Falls en s'efforçant de masquer son chagrin. Elle est immédiatement fascinée par Stéphane et Damon Salvatore, deux frères que tout oppose, qui viennent d'arriver en ville. Elle ne tarde pas à découvrir qu'ils sont en fait des vampires.
C'est un peu comme dans Twilight.
Je sais pas, mais vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'il y a un truc surnaturel, ça commence par « après la mort de... » Regardez Charm au-dessus. « Après la mort de leur mère... »« Après la mort de leurs parents... » C'est souvent des adolescents qui se retrouvent dans des situations ambiguës.
C'est vrai que dans Lock and Key, le père est mort.
Ouais, aussi.
Dans Sexy Beast, non.
Ouais, non, mais c'est pas... ça n'a rien à voir, ça.
Bah, on sait pas, hein, ça se trouve.
Mais c'est souvent ça. Du coup, l'automne... Octobre, Halloween, tout ça, tout ça, Simon, ça m'a donné envie de retourner faire un tour à Mystic Falls. Je trouve que rien que le nom,
c'est vraiment le nom de la ville.
Rien que le nom de la ville, voilà, on est dedans.
Je sens qu'il y a des trucs paranormaux.
Ouais, mais on est bien, non ? Moi, je trouve qu'on est dans le thème.
Ça pourrait être deuxième ou troisième degré, sauf que du coup, ça l'est pas.
Moi, je trouve qu'on est dans le thème.
Mystic Falls.
Mystic Falls.
Vraiment, je trouve que ça, c'est une ville où il y a des fantômes.
C'est trop beau comme nom de ville.
Oui, mais c'est trop, c'est superficiel.
Oui, moi, j'aime bien Mystic Falls. Ça pourrait être le nom d'un club secret, tu vois, les Mystic Falls.
Ouais, mais là, ça a du sens, pas pour le nom d'une ville. Enfin, bon.
Donc, la saison 1 est toujours vraiment pas ouf.
Il y a peu de chances que ça évolue maintenant.
Hein. Ouais, non, bah voilà, mais sur le coup, tu vois, j'avais très envie de regarder Vampire Diaries et j'ai lancé la saison 1 et en regardant, je me suis dit... Putain, c'est quand même pas ouf. Cette saison-là, elle est pas ouf.
Moi, je dis ça, je me fais bâcher.
Bah, parce que je sais pas, j'avais envie de commencer par le début, tu vois.
C'est pas idiot.
Non, toi, tu critiques méchamment. Moi, je sais que c'est pas. Enfin, je sais que c'est pas incroyable, mais comme je le dis après.
J'ai insulté cette série.
Donc, oui, c'est pas incroyable. Ça fait clairement penser à Twilight, hein. La rencontre des deux âmes sœurs, tout ça. Elena est énervante, elle crie tout le temps, elle pleure tout le temps, elle hurle. Et Stéphane, il a toujours l'air déprimé, le gars. T'as l'impression que t'as l'impression que son chien s'est fait écraser.
Est-ce qu'on n'est pas
tous les
la
jours de la vie
plus.
Si si, c'est plutôt bien adapté.
Tout le temps. Mais pourtant, regarder cette série a un côté rassurant et douillet.
C'est très explicatif.
Voilà.
Par exemple, tout à l'heure, on était allongé au milieu de la route et il dit « Je suis perdu » à une femme qui s'est arrêtée.
C'est pas ça qu'il dit.
C'est l'inverse du chaudron de tel, en fait.
C'est elle qui lui dit « Vous êtes perdu ». Ah non, il dit « Je suis perdu » et elle lui dit «
Vous êtes
non,
sur
vous
la route ». Ce qui n'a aucun rapport. Tu peux être perdu et sur la route.
Mais non, mais c'est parce qu'il était... il faisait genre, il était alcoolisé, donc il dit « Je suis perdu », genre il est perdu dans sa tête, tu vois. Et du coup, elle a dit non, vous êtes sur une route, monsieur. Oui, donc, je disais, c'est rassurant, c'est douillet. J'ai dévoré la saison 1 et actuellement, je suis en train de regarder la saison 2, la saison où Damien a aperçu ce moment
cette
où Damon était allongé sur la route et qui est déjà plus amusante. Dans la saison 2, il y a plus de vampires, des loups-garous, des vampires originals qui a... en rapport avec la série The Originals.
Est-ce que ça a un rapport avec la plateforme ?
Non. Et la série a pas... Franchement, on critique beaucoup, mais visuellement, en tout cas, la série, elle a pas tant vieilli que ça. Par exemple, tout à l'heure, je regardais dans la saison 2 la scène de transformation, la première transformation de Tyler en loup-garou, et franchement, c'était pas trop mal, quoi.
Ça ne peut que bien vieillir, vu qu'il n'y a pas d'effets spéciaux dans cette scène.
Oui, mais
c'est juste,
ça veut rien
une
dire.
Une grotte, une chaîne et un mec qui se démembre.
Oui, mais ça pourrait être très mal fait. Enfin, je sais pas si t'as déjà regardé Teen Wolf, mais les loups-garous, enfin, il faut mieux pas les montrer.
Mais là, c'est un parti pris pour le coup.
Oui, je sais, c'est kitsch fait exprès.
J'aime bien quand tu fais un truc moche, c'est un parti pris.
Si, mais alors que là, si. Tu sens que c'est pas fait exprès.
Si, moi je suis d'accord. Genre, par exemple.
Non, mais ils sont moches dans le sens dégueulasse, quoi.
Ouais, dans Teen Wolf, c'est fait exprès. Et ça, en fait, t'acceptes ça.
C'est fait exprès.
Mais c'est parce qu'ils savent pas faire mieux.
Bah,
mais
voilà,
voilà,
mais donc
non,
tu
mais je pense que si.
Mais
je sais,
t'arrives pas à faire un truc, donc tu dis aussi. C'est un parti pris. Je vois, c'est pas vrai.
Mais non, mais il y a d'autres trucs, genre Shadowhunter par exemple. Tu vois, Shadowhunter, ça a un style très particulier. C'est kitsch de ouf. Vraiment. Et ça utilise des effets spéciaux un peu After Effects. Mais c'est un parti pris.
Que t'as les moyens d'avoir.
Mais
c'est
non,
tout.
Je pense pas. Je pense pas, parce qu'en plus, c'est issu de roman, donc je pense qu'ils essaient de se rapprocher des choses. Et Vampire Diaries est une adaptation de roman aussi. Hein. Il y a je sais pas combien de tomes de ce truc.
Ah ouais ?
Ouais.
Je sais pas si c'est autant descriptif. Parce que, par exemple, tout à l'heure, la suite de cette scène...
Ah non, mais attends.
Elle tombe sur Damon qui est allongé sur la route. Ils vont discuter pendant 15 minutes.
Mais c'est
et
lui
après,
qui...
il va la manger.
Mais normal !
Mais il aurait pu la manger
mais
dès
non.
le début, ça sert à rien.
Il vient... Il était... pas amoureux, mais ils commençaient à se rapprocher d'une autre vampire. Donc, ils avaient une liaison et ils étaient liés. Et en fait, il a dû la tuer parce qu'elle était en train de mourir à cause d'une morsure de loup-garou. Donc, le type, il est mal. Il a tué quelqu'un qu'il appréciait. Et donc, il va sur la route Et là, il déballe son sac à une inconnue en l'hypnotisant, c'est pour ça qu'elle s'enfuit pas. Il déballe tout son mal-être et son truc, et il finit par la tuer pour essayer de faire passer son mal-être. Je vois pas ce qu'il y a de problème.
Bon, c'est un émo, mais ok.
Je vois pas ce que... Moi, je vois pas... Mais en fait, voilà, c'est... Forcément, si tu prends des petits bouts, ça a pas de sens. Mais je trouve pas que ça soit si débile que ça. Enfin,
peut-être
de mon point de vue...
Peut-être qu'il faudrait que je la regarde en entier, ça fait longtemps que j'ai pas vu.
Mais... Est-ce que t'avais déjà regardé ?
J'avais regardé une saison.
De mon point de vue, ok, la saison 1 vraiment commence pas par celle-là, parce qu'elle est vraiment pas intéressante du
pas
tout.
Par la saison.
Mais en tout cas, je trouve que ça parle de choses intéressantes. Enfin, c'est des ados... Mais après, c'est des séries pour ados, tu vois,
comme
ils vont pas
dit,
non plus...
J'aime bien quand on conseille une série en disant « passe la première saison ».
Je suis désolée, mais je dirais à quelqu'un de regarder Doctor Who, je lui dirais pas « commence par la saison 1 ».
C'est le meilleur exemple, ça. C'est... Dans Doctor Who, c'est presque pire, ce que maintenant on dit « passe les 5 premières saisons ».
Ouais, moi j'adore la 5, c'est ma préf.
Enfin, il y a vraiment un truc de... De toute façon, les docteurs, ils s'enchaînent et tout. Il y a pas ça dans...
Non. Non, c'est sûr, mais la saison 1, elle t'apprend quoi ? Elle te dit, il y a deux vampires qui sont dans une ville, ils sont amoureux d'une meuf. Donc ça fait un trio amoureux. Voilà ce que t'apporte la saison 1. Et en fait, les intrigues...
22 épisodes pour ça ?
Ouais,
je te le fais en 10 minutes.
Bah, et en fait, c'est juste elle qui découvre qu'ils sont des vampires, parce qu'au départ, elle le sait pas. C'est ça, en fait, la saison 1. Et en fait, dans la saison 2, elle sait qui sont des vampires, et en fait ce qui est pas mal, c'est que tu la vois évoluer. Au départ, elle passe d'une adolescente peureuse qui arrête pas de crier dès que quelqu'un se fait tuer ou des trucs comme ça, à elle prend les choses aux mains parce qu'elle s'aperçoit que en fait elle est maître de son histoire, elle est vraiment au cœur de l'histoire, et d'ailleurs c'est elle est elle-même un personnage surnaturel, en fait elle est un double de Petrova, je crois que c'est comme ça qu'on dit. En fait, c'est un truc mystique aussi, donc...
Bah, on est à Mystic Falls, hein.
Ouais. Non, mais en plus, voilà, chacun développe sa petite histoire et ça devient plus intéressant.
Bon, je suis peut-être de mauvaise foi
mais
sur le côté,
de mauvaise
c'est
foi.
Très nul, mais
après,
toi,
je te dirais
de mauvaise foi sur le côté, c'est génial.
Non, mais c'est ce que je te dis, c'est un affect, c'est parce que cette série, moi, je l'ai regardée quand j'étais ado, et j'ai vachement de souvenirs. Enfin, je me rappelle d'un été où j'avais été à Bordeaux, et avec une pote, on regardait plein d'épisodes à la chaîne de cette série, on était trop accros, quoi. On se dit, oh, on veut la suite. Et c'est pareil, j'ai le même affect avec Teen Wolf, parce que bah, c'est des séries que j'ai vraiment dévorées, et voilà. Et donc c'est juste, c'est rassurant, en fait. C'est des trucs que quand tu te sens pas très bien, je pense que c'était rassuré. C'est des trucs qui, tu connais l'histoire et c'est rassurant.
Je comprends.
Et du coup, c'est rassurant de voir des gens se faire bouffer par des vampires. Voilà. Mais je suis pas c'est de bien. Mauvaise foi. Je reconnais le fait que scénaristiquement, c'est pas incroyable. Et que les dernières saisons sont à chier. Mais vraiment, les dernières saisons, c'est une horreur. Mais en tout cas, visuellement, ça a 12 ans. Et je trouve que bah, ça va. Les effets spéciaux, les vampires, les trucs comme ça, bah, je trouve que c'est pas dégueulasse, quoi.
Prends-en de la graine, Netflix.
Tout à fait.
On en reparle de toi dans 12 ans. C'est tout bon ?
Tout bon.
Hey.
On peut passer au film à présent. On va passer à un film que Mathilde et moi vont regarder dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge. Vous pouvez regarder sur Insta la liste si vous voulez. Il s'agit de La Forme de l'eau, sorti le 21 février 2018, qui dure 2h03, hyper précis. C'est dispo sur Disney+. C'est réalisé par Guillermo del Toro.
Comme le Trollhunter.
Ouais, si vous avez suivi, c'est avec Sally Hawkins, Doug Jones et Michael Shannon. Ça parle d'une modeste employée d'un laboratoire gouvernemental ultra secret, Elisa, qui mène une existence solitaire, d'autant plus isolée qu'elle est muette. Sa vie bascule à jamais lorsqu'elle et sa collègue Zelda découvrent une expérience encore plus secrète que les autres. J'avais pas lu le synopsis, il est vraiment kitsch.
Un peu, hein. C'est plus secret que secret.
Mystic Falls.
Bon, Mathilde, si tu veux, je te laisse les trois premiers mots.
C'est
La Forme de l'eau.
Non.
Moi, j'ai trouvé que c'est un beau film.
Voilà.
Ah oui, les...
Mais après, en fait, je voulais que tu dises ce que t'en penses et je réagirai.
Okay.
Parce qu'en fait, des fois, j'ai pas envie de répéter deux fois ce qu'il y a écrit, tu vois. Okay, donc, je préfère que tu dises et moi, je hoche la tête. Je
ce qui est hyper
du chef, comme on dirait.
Je pense que tu peux peut-être le faire vocalement.
On dit je opine du chef.
Oui.
C'est ce qu'on dit dans les livres. J'aime bien cette expression.
Fais-le vocalement parce que les auditeurs n'entendent pas.
Mon chat Watson.
Eh bien, qui est Watson? Et ben moi j'avais jamais vu ce film.
Moi non plus.
Mais je connaissais le super succès critique qu'il avait eu. Et clairement, il mérite ses différents prix. Notamment, j'ai noté les Oscars du meilleur film, de la meilleure réalisation, des meilleurs décors et de la meilleure musique. Et
meilleur de beaucoup de choses.
Bah oui.
The best.
Bah on va, les Oscars du deuxième meilleur, ça n'existe pas. On devrait le faire. Et clairement, je trouve que c'est mérité parce que c'est quatre domaines où le film brille. Ce long métrage est une sorte de fresque fantastique, poétique, hors du temps. C'est à la fois
très beau.
Intime, merci. Intime et épique. Quoi? Ça avait l'air marrant. C'est à la fois intime et épique. J'ai vraiment déconnecté pendant 2 heures. Avec une suspension d'incrédulité au maximum.
Ce qui signifie que tu volais ?
Oui.
C'est exactement la définition.
Ton esprit volait ?
Non, bah un peu en fait. Enfin vraiment, je me suis laissé emporter.
Non,
la suspension d'incrédulité, c'est quand t'acceptes que le film te raconte des trucs qui sont pas possibles dans la vraie vie.
Ah,
genre
d'accord.
Joséphine Ange Gardien, quand tu regardes, t'acceptes qu'il y a des anges gardiens.
Genre tous les films dans...
En fait, Vampire...
Genre tous les films dans l'espace où en fait... c'est pas super réglé ouais, voilà. Scientifique.
Vampire Diaries,
t'acceptes qu'il y a des vampires.
Je suis crédule de ouf, quoi.
T'acceptes qu'il y a des vampires. C'est un contrat... C'est un contrat
d'incrédulité de combien de saisons?
J'aimerais bien signer un contrat avec Vampire. Je réécris tous les dialogues. Je fais ça sur Twitch. Je mets des visuels et je parle à leur place.
Ça s'appelle du doublage.
C'est trop bien.
C'est très drôle à faire.
Ah, ça pourrait être amusant.
C'est très drôle à regarder. La réalisation donc est très soignée. Elle m'a fait voyager et ça m'a un peu fait penser à dans un autre genre, mais dans le délire à la au fabuleux destin d'Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet dans une manière très...
avec un peu moins d'eau.
Oui, bah oui. Et avec
de
un...
forme.
Non, mais dans un autre genre, mais je veux dire dans une manière de représenter une ville, un quartier avec quelque chose d'hyper esthétisé. C'était le même truc. Par contre, j'ai pas trouvé la relation entre Elisa et la créature qui est hyper bien faite, au passage. Vraiment, c'est bluffant. J'ai trouvé un peu étrange donc cette relation parce que dans un premier temps elle est amicale, ensuite elle est amoureuse, jusque là c'est très beau où tu te rends compte en fait c'est une créature qui ne parle pas
elle parle le langage des signes.
Non, je parlais de la créature. Oui, mais je veux dire elle a aucun moyen de s'exprimer à part
elle parle le langage des signes.
Ouais, voilà, mais elle est très différente de nous quoi.
Ouais.
Et Elisa est enfin voilà, donc du coup leur relation est très touchante et puis d'un coup, ils veulent faire la chose. Donc il y a chose et là j'ai dit mais
pour... par chose, ils veulent dire sexe.
Sexe. Et donc du coup, je comprends pas pourquoi. Tire un bingo. Il fallait que je dise sexe. Non mais voilà. Donc...
Le cochon. Cocher.
Mais voilà, j'ai pas compris pourquoi le film dit allez on va là-dedans alors que clairement il n'avait pas besoin.
Je trouvais que c'était un jeu de mots.
Non.
Moi aussi, mais je...
Désolé, non, je ne pense pas qu'à ça.
Bah le pourquoi c'est que je sais pas, peut-être histoire d'aller au bout des choses.
Bah
écoute.
Bah, j'ai pas trouvé ça nécessaire. Enfin, je trouvais que leur relation était déjà hyper touchante quand elle était à l'étape
platonique.
Platonique.
Mais j'ai pas vu, hein. Je vais pas trop avoir des vies. Hein.
Et
moi, ça me choque pas, en tout cas, dans le scénario, qu'il se passe plus de choses que juste une relation.
Bah ouais, et en plus.
Enfin, vu qu'il y a vraiment un côté physique qui a l'air d'être vachement mis en avant, il est vraiment différent. Du coup, ça.
Moi, je pense qu'il faut pas le voir, ouais. Enfin, faut pas rester sur c'est une créature. Enfin, dans le film, c'est certes une créature marine, mais je pense que peut-être que le film il essaie juste de parler genre des personnes différentes en général, oui, non, sans que ça soit une créature des
autres. J'ai très bien compris ce message-là.
Je pense que c'est une métaphore.
Parce qu'en fait, la personne la plus proche de la créature, c'est Elisa, parce que les deux n'ont pas la parole, n'ont pas l'usage de la parole, et donc se comprennent hyper bien grâce à ça, et sont très isolés, tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui les rassemblent. Mais en fait, c'est juste franchir ce cap-là que j'ai pas compris. Ouais. Pourquoi les faire avoir des rapports sexuels ? Il n'y avait pas nécessairement besoin, en fait.
Bah, parce que c'est une créature marine, c'est la nature. J'en sais rien.
Parce que ça fait vendre.
Ouais, peut-être aussi.
Ouais, mais enfin... Le film va vraiment pas dans un délire.
Le moment qui m'a trop fait marrer...
Et tout ça, donc je vois
moi,
pas
le moment
ça fait
que j'ai trouvé incroyable, c'est quand elle en parle avec Zelda... Et genre, elle lui explique, elle dit, oh, bon, c'était caché, ces parties intimes et tout, et que l'autre, elle fait un truc genre, elle fait une espèce de geste pour lui montrer qu'en fait, non, ils étaient cachés et tout. Enfin, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on parle de ça?
Mais voilà, en fait, c'est tout un moment, on vire là-dedans et c'est bizarre.
Ouais. Mais je sais pas quoi dire. Moi, elle m'a un peu fait peur, la créature. Du coup,
ah bon
ouais. Je trouvais qu'elle était aussi, elle était bien faite, hein, mais elle était effrayante. Hein.
Bah, elle est un peu flippante, ouais.
Moi, j'aurais pas aimé que ça soit mon.
Elle
ami
peut même
créature,
être un
moi.
Peu repoussante, justement.
Ah ouais, ouais.
C'est cela qui est encore plus beau dans l'histoire, dans son histoire avec Elisa. C'est tout bon.
C'est tout bon.
Yay.
On va enchaîner avec un autre film du Pumpkin Autumn Challenge, qui cette fois était vraiment pas ouf, c'est Sacrée Sorcière.
Et vous... C'est pas adapté d'un livre.
Oui,
si.
C'est sorti le 17 mars 2021, ça dure 1h45, et c'est dispo sur Canal+. C'est réalisé par Robert Zemeckis, c'est avec Anna Taway, Octavia Spencer et Stanley Tucci. Ça parle d'un jeune garçon et de sa grand-mère, exilés en Angleterre, qui luttent contre d'horribles sorcières. Et contrairement aux idées reçues, les sorcières ne portent ni balai, ni verrues, ni chapeau pointu. Les démasquer représente donc une vraie difficulté pour le petit garçon qui va devoir rivaliser d'ingéniosité pour échapper à la perfidie de ces vilaines créatures. C'est vraiment pas ouf comme synopsis.
Non. Pour information, y a une actrice qui jouait dans La Forme de l'eau.
Oui.
Qui joue... En fait, l'actrice qui joue Zelda dans La Forme de l'eau joue dans ce film.
C'est un univers étendu.
Non, pas du tout, mais voilà, c'était une info
c'est
comme
Octavia
ça.
Octavia Spencer, je
voilà,
crois.
Voilà, je crois aussi.
Mais normalement, c'est bien le livre Sacrée Sorcière.
Et ben, en tout cas,
ce film-là,
n'était pas ouf.
Pas bien du tout.
Déjà,
j'ai lu petit, j'en ai un bon souvenir. Alors, je me souviens pas de grand-chose, mais.
Bah, tu pourras regarder le film si tu veux, mais alors déjà, les sorcières sont vraiment terrifiantes.
Bah, ça, c'est bien fait.
Là, elles sont terrifiantes. Ou
ah ouais,
les sorcières
oui,
font partie des points positifs.
Alors qu'elles n'ont pas verrues.
Ah non, mais
elles sont pires.
Elles sont chauves.
Elles ont des croûtes sur le crâne.
Elles ont... Ouais, parce que du coup, elles font... Tu sais, c'est une maladie... Enfin, c'est quand tu portes beaucoup de perruques, tu te mets à avoir des croûtes. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un
je
vrai truc.
Je sais pas
truc.
S'il faut y voir une vraie maladie.
Si, si, non, mais ça porte un nom. Elles en parlent même dans le film.
Ouais,
c'est
ouais,
l'apoplexie ou un truc comme ça. Enfin, c'est un vrai truc.
Perruquie.
Enfin, j'en sais plus.
C'est un peu ça.
En tout cas, il y a ça. Elles ont un gros orteil chelou à la place. Enfin, elles ont pas de leur.
Elles ont une sorte de griffe. En fait, elles ont que trois doigts griffus.
Ouais.
Elles ont une bouche qui va jusqu'à la moitié des joues.
C'est vraiment trop bizarre.
Et alors, des grosses narines.
On voit pas. Il faut décrire.
Ah oui, désolé si je croyais que je faisais un.
Nous, on ouais. voit quoi. Mais...
Du coup, elles ont une bouche qui va jusqu'aux oreilles.
Yay. Comme dans le truc qu'on raconte aux enfants où on leur dit qu'on va leur ouvrir les commissures des lèvres.
Ouais, ou comme le Joker quand il se défonce la bouche.
Aussi.
Mais oui, clairement, c'était très bizarre. C'est un petit garçon. Il est avec sa grand-mère. Et oui, et il croise une sorcière.
Ah bon ? Ah oui,
oui.
Oui, une sorcière qui tombe un peu de nulle part.
Ouais, ouais, il croise une sorcière et en même temps, il trouve une souris. Sa grand-mère...
Vraiment, c'est l'histoire.
Sa grand-mère lui rapporte une... Non, ses parents viennent de mourir, quand même.
Ah,
à ce petit garçon. Ce petit garçon, ses parents viennent
oui,
de mourir.
Oui, c'est vrai, ses parents sont morts.
Et du coup, c'est sa grand-mère qui se met à s'occuper de lui. Mm. C'est ça, le début de l'histoire. Et là, oui, sa grand-mère lui offre une souris pour que bah, il soit moins triste. Et il croise une sorcière. Et pour se protéger, il décide d'aller dans un hôtel qui ressemble un peu, qui pourrait être le grand hôtel de Granville, tu vois, par exemple. Ça ressemble un peu à ça.
Okay.
dans un grand hôtel.
C'est hyper précis. Ouais, c'est vrai.
Dans un grand hôtel luxueux. Et ben, ils vont là-bas pour se réfugier, pour éviter les sorcières mal.
Pourquoi les sorcières essaient de l'attaquer?
Ah, parce que les sorcières détestent les enfants.
Elles veulent tuer tous les enfants. Malheureusement, ils vont dans l'hôtel, dans cet hôtel, et dans cet hôtel, il y a une convention de sorcières où toutes les sorcières se rassemblent pour mettre au point leur plan diabolique pour tuer tous les enfants de l'univers.
Oui, en livre, ça doit marcher hyper bien, en film, pas du tout.
Et là, on s'aperçoit que le plan diabolique des sorcières, c'est de transformer tous les enfants en petites souris. Et elle transforme.
Parce que vous êtes juste pas le public.
Non.
Et elle transforme malencontreusement notre héros en petite souris. Et il se rend compte que la petite souris qu'il avait lui-même eue par sa grand-mère quelques semaines ou mois plus tôt était en fait une humaine.
Non.
Une petite fille transformée elle aussi en petite souris.
Non, ça, c'est trop mignon.
Oui. Et bah, le but, c'est de empêcher que les sorcières transforment tout le monde en petite souris. Ils y arrivent. Spoiler alerte, ils y arrivent. Par contre, désolé, mais où, à quel moment les enfants sont contents de rester une petite souris? Les enfants, ils
t'as
sont...
Mais t'as raté une étape. Parce qu'en fait, au cours du film, il y a le héros et son copain, le petit gros, qui sont transformés en souris.
Oui, mais ça, je l'ai dit.
Et à la fin...
Ils restent des souris tous.
Tout le monde... Et moi, j'ai dit, où est le scénario? Où sont les conséquences? Ce film n'a aucune conséquence. Rien n'est jamais grave.
Mais le pire, quand même, c'est que...
La mort des parents est au même niveau que on n'a pas de goûter, on va vivre des souris toute notre vie.
Mais le truc incroyable, c'est que le petit garçon demande à sa grand-mère, « Mamie, ça vit longtemps, les souris ?» Et sa grand-mère, elle lui dit, « Oh, quelques années. » Il dit, « Ah, ça va, comme ça, bah, je partirai en même temps que toi. » Genre le petit garçon qui avait genre 10 ans.
Bah c'est super touchant.
On vient de lui apprendre qu'il va genre vivre en souris peut-être 5 ans de sa vie.
Déjà c'est une souris qui parle quand même.
Ouais, c'est une souris qui parle. Mmh. 5 ou 6 ans de sa vie et le gosse, il est pas trop mal, il dit
la suspension d'incrédulité, elle a pas marché pour Emile.
le gosse il est pas trop mal, il dit "Ah OK mamie, c'est pas grave, je vais vivre ces 5 ou 6 années avec toi, ça va être cool. De toute façon, j'ai pas d'autre famille que toi et j'aimerais pas rester vivre après ta mort." Et du coup, la mamie, elle s'occupe des souris.
Il est en dépression.
Non, ça, franchement, non, ça
non,
va
en
pas
en fait,
du
moi,
tout.
Ce qui m'embête, c'est que le film est mou du fion, quoi. Vraiment, ça décolle jamais. Le climax, il est... Bon, bah d'accord, il y a un climax. Ça... Oui, c'est ça, il y a...
Je suis désolée.
On s'en fout, quoi.
Mais
on regarde
c'est
le
un
film
livre...
on dit on s'en fout.
Je sais pas comment ça se finit dans le livre, mais c'est un livre pour enfants. Et si la fin, The End, c'est... Les petits enfants restent des souris et meurent à la fin, au bout de 2 ou 3 ans, en même temps que la grand-mère. Eh ben, j'ai pas envie de lire ce livre parce que moi, je vais faire des cauchemars.
Bah, c'est un Roald Dahl, c'est pas tout à fait notre époque.
Mais en parlant de Roald Dahl, c'est quoi la fin cette histoire de Roald Dahl Cinematic Universe? Il y a vraiment un truc à la fin du film où t'as un titre, c'est genre le je sais plus le nom exact, mais c'est vraiment écrit Roald Dahl ou genre les films, les histoires de Roald Dahl. Enfin, en gros, c'est comme s'il y avait une licence. Enfin,
bah,
c'était marrant.
C'est possible. Hein. Bah, ayant droit, ils aient dit. Oui.
Mais je crois que Netflix est en train de préparer une série sur Charlie la chocolaterie.
Oui.
Ouais, c'est Netflix.
Mais
bah, peut-être que
Charlie
c'est
lié. La chocolaterie, il se passe des trucs pas ouf.
Mais ça finit bien. Charlie devient PDG d'une chocolaterie multinationale.
Alors, ça se finit bien si t'es un capitaliste, mais imaginons que tu veuilles te faire tout à fait autre chose de ta vie.
Sa famille très pauvre vit dans la luxure maintenant.
Ben voilà, et du coup, est-ce que la morale est si géniale?
Ça m'a envie de regarder Charlie la chocolaterie. Et ça
lequel
me
fait... S'il y en a deux, il y en a un qui est chaud
Tim
à regarder
Burton.
Parce qu'il est kitsch, et celui de Tim Burton, ça va.
Et ça me donne ça me fait penser que Timothée Chalamet va bientôt jouer Charlie et la chocolaterie.
Ça.
Ça, c'est cool. Vous avez hâte? Moi, j'ai hâte.
Timothée Caramel.
Ah, Timothée Caramel. Son nouveau prénom.
C'est toi qui as dit Timothée Chalamel, alors.
Chalamel. C'est beau,
on va laisser Timothée Chalamet là où il est. Et on va passer à un film que j'ai regardé seul. Promis, ça ne va pas durer longtemps. Ça fait écho en plus avec mon Hypito. Puisque pour la sortie de Mourir peut attendre, j'ai regardé 007 Spectre sur Salto. C'était sorti le 11 novembre 2015, c'était il y a méga longtemps, ça dure 2h28. C'est réalisé par Sam Mendes avec Daniel Craig, Christophe Waltz et Léa Seydoux.
Doux.
Et Le résumé est qu'un message cryptique venu tout droit de son passé pousse Bond à enquêter sur une sinistre organisation. Alors que M affronte une tempête politique pour que les services secrets puissent continuer à opérer, Bond s'échine à révéler la terrible vérité derrière le spectre. Donc, j'avais pas revu ce film depuis le cinéma, et à l'époque, ça m'avait pas laissé un souvenir formidable. Et finalement, eh ben, Spectre n'est pas si mal. Bon, ça vaut clairement pas l'intensité de Casino Royale ou la classe de Skyfall, mais c'est pas aussi mauvais qu'on veut bien le dire, parce que ce film a pas une super réputation.
Ah bon ?
Non.
D'accord.
Le scénario se veut chouette et ambitieux, mais se prend un peu les pieds dans le tapis avec quelques maladresses. Par exemple, une organisation secrète et un super méchant qui tombe un peu comme un cheveu sur la soupe.
Je pense que normalement, de mémoire, Spectre, ça existe avant. Hein.
Oui.
Et du coup, ça tombe peut-être un peu comme un cheveu sur la soupe.
Alors, de ce que j'ai compris et entendu, c'est qu'en fait,
c'est un méchant d'avant,
Sony quoi. Qui est devenu, non, enfin, je sais plus, enfin, les producteurs, la production n'avait plus les droits d'utiliser les noms Blofeld et Spectre. Et en fait, dès que les droits sont revenus, paf, on les met quoi.
Okay.
Donc, c'est pour ça que ça tombe un peu nulle part. Mais ça casse un peu, il y avait des méchants exceptionnels dans Casino Royale et dans Skyfall.
Ouais, là,
et ça les fait passer pour des hommes de main, de Spectre. Donc, c'est très dommage. Là-dessus, il y a aussi Monica Bellucci dans ce film qui est juste un objet sexuel et ça ruine en fait 10 ans de progrès quant au rôle des femmes que la saga avait réussi à faire depuis Casino Royale. Voilà, la position des femmes avait vraiment était vraiment meilleure. Et puis il y a beaucoup trop d'intrigues secondaires qui sont prévisibles. On voit venir plein de choses, donc ça c'est dommage. Et Sam Mendes, finalement, il semble être arrivé en bout de course. Bon, c'est dommage, au bout du deuxième film. et en fait, il y a un faux rythme tout le long qui est très perturbant. Tout a l'air lent. Il y a une scène de course-poursuite en voiture. C'est lent. C'est vraiment...
Des voiturettes.
C'est une voiture de golf.
Mais non, pourtant, c'est une Aston Martin et je sais plus, une Lamborghini. Vraiment des voitures de bâtard, quoi.
Ouais.
Et voilà. Bon, bah, finalement, je dis des choses négatives, mais bon, ça reste un bon James Bond. On a vu nettement pire, mais c'était pas mal quand même. Voilà.
Mais c'est aussi peut-être. Tu l'as vu avant de regarder David.
Oui, c'était juste pour me rafraîchir la mémoire. Ouais. Parce que voilà, si jamais vous voulez aller voir Mourir peut attendre, il faut absolument avoir vu Spectre, sinon vous n'allez rien comprendre.
Vous m'avez pas entendu parce que j'ai vu aucun de ces films. Voilà, pour
c'est
préciser.
C'est un choix, j'ai jamais vu Vampire Diaries.
Oui, mais j'ai pas d'avis. J'ai pas d'avis, du coup, c'est juste pour ça.
Oui.
Très bien.
Et ben maintenant.
Heureusement que je précise pas à chaque fois que j'ai pas vu un truc que vous avez regardé.
Et ben maintenant, on va parler d'un film qu'on a vu tous les trois. Damien, tu l'avais vu il y a quelques temps, t'en avais parlé un peu.
Oui.
Il s'agit.
Ça avait peut-être. Non, ça avait peut-être pas été mon sujet du mois, sans doute pas.
Je crois
c'était
pas.
Pas aussi ouf, mais...
Il s'agit d'Army of the Dead, qui était sorti le 21 mai 2021. Il dure aussi 2h28, ça m'a fait rire quand j'ai noté. Voilà. c'est okay. Dispo sur Netflix. C'est réalisé par Zack Snyder avec Dave Bautista, Ella Purnell et Omari Hardwick. Et pendant une invasion de zombies à Las Vegas, un groupe de mercenaires décide de tenter le tout pour le tout et de pénétrer dans la zone de quarantaine pour le plus grand braquage de leur vie.
Moi,
je vous propose
si
qu'on
voulez,
aille assez vite,
je peux
juste
commencer.
En précisant
c'est
que
rapide.
C'était... Je parle.
Ah, d'accord.
Je vous propose qu'on aille assez vite juste pour enchaîner ensuite avec le sujet du mois.
Ah bah attends, il y a Confession d'une fille invisible.
Ah, mais il s'est incrusté là, genre que c'était bien fait. Dans... Bon, allez, on en parlera tout à l'heure du sujet du mois. Mais je vous propose quand même qu'on aille assez vite. Donc Mathilde, je te donne la parole.
D'accord, je vais aller très vite. J'ai pas compris le but de ce film. Il raconte voilà. Rien, à part on va essayer de mourir pour avoir plus d'argent. Quel est le but? Je ne sais pas.
C'est un
pas
film
très
de braquage, c'est le principe de
par
tous
contre,
les films de braquage.
Par contre, ah, en fait si, j'ai un truc à dire. Les zombies sont bien faits, ils font peur, vraiment, ils font grave peur. J'étais triste pour le roi des zombies quand sa reine zombie est morte, surtout qu'ils ont tué son bébé zombie.
Beaucoup trop de
du
fois
coup,
zombie dans cette phrase.
Du coup, par rapport au film, tu vois, genre La Forme de l'eau, je trouve que ce film est pas très bien, parce que ça dit que les gens qui... Ils n'ont pas essayé de comprendre des... Si, oui, ils n'ont pas essayé de comprendre les zombies, ils les ont juste direct tués alors qu'ils auraient pu essayer de les comprendre, essayer de communiquer avec eux, voir ce qu'ils voulaient et tout ça. Et voilà. Bah voilà, ils auraient dû faire ce film avec Guillermo del Toro.
Je réponds, alors du coup, justement, c'est dommage que ce soit Zack Snyder qui fasse ce film, surtout qu'il n'y a pas de scénario. Donc en fait, tu laisses une page blanche de 2h30 à Zack Snyder, qui a toute la place dans ces cas-là pour mettre ses valeurs.
C'est quoi ces valeurs ?
Gros pistolet, gros muscles, testostérone x 4000, tunas et bagarres.
Des hélicos.
Ah. Des hélicos, des explosions.
Il y a un autre truc que j'ai vraiment pas du tout apprécié. L'espèce de garde là dans le camp qui on va dire clairement est accusé
FDP.
Est accusé de viol sur des gens du camp et tout ça.
Oui.
Il va avec eux, donc bon, il le donne en pâture, ça moi j'ai trouvé ça amusant, je me suis dit tiens, prends ça.
Ça c'est la subtilité de Zack Snyder, prends il y a une raclure, bon on en fait un
voilà.
Appât.
Prends ça dans ta gueule. Donc ça j'ai bien aimé. Par contre, j'ai pas du tout aimé le fait qu'il revienne en zombie et du coup qu'il attaque les meufs en mode ça faisait vraiment
c'est comme ça on peut le tuer deux fois.
Non, mais moi dans ma tête, je me suis dit ça fait vraiment vous voyez le gros FDP début là, et bah hop, vous croyez qu'il est mort, qu'on s'en est débarrassé, et bah non, les méchants reviennent toujours vous hanter. Voilà, et bah moi j'ai pas aimé ça.
Mais vraiment, je pense que c'est ce qui s'est passé à la tête de Zack Snyder, c'est sa subtilité. Hein.
Ouais, et bah franchement,
moi je pense juste que c'est devenu un zombie parce qu'il s'est fait mordre.
Oui,
voilà.
Ouais, non.
Mais
non.
Par contre, c'est vraiment dommage que ce monsieur soit un génie de la mise en scène. Tous ses plans sont magnifiques dans ce film, c'est incroyable. Comme c'est bien composé.
C'est vraiment dommage du coup, parce que sinon le film aurait vraiment été nul.
Oui, mais c'est un piètre scénariste et un piètre narrateur, mais c'est un metteur en scène de ouf. Et comme dirait l'autre, j'aime bien cette phrase, c'était trop bien, j'ai posé mon cerveau pendant 2h30 et je me suis éclaté.
Ah bah pas moi, moi j'ai non, arrêté.
Non, mais qu'il est long.
Non, mais
ouais,
c'était, je sais pas mon cas, c'est une phrase que j'exècre, mais à mon avis, c'est ce que beaucoup de gens se sont dit.
Bah moi, au bout d'un moment, j'ai juste arrêté. En fait, je me suis levée et je me suis mis à faire un pulse. Ouais, je me suis mis à faire un pulse.
Je comprends.
Parce que bah, le pulse, c'était vachement plus cool à regarder et plus intéressant. Voilà, c'était la fin. Damien ?
Non, moi, j'ai un avis aussi.
Non, Damien, il a bien aimé.
Moi, c'est un peu plus décousu parce que ça fait plus longtemps que je l'ai vu, mais j'ai noté que le mélange de braquage et de film de zombies, je trouvais ça marrant, que je m'étais pas ennuyé. Bon, en vrai, c'est pas vraiment le cas. Je me suis dit que ça avait été un peu long, genre la fois où elle se barre en hélico et où elle revient, bah ça n'a pas d'intérêt.
Oui, quoi. Les enjeux nuls.
Oui.
Qui c'est pour les péter en 30 secondes.
Ah oui, quoi. Oui, ça servait à rien. Mais par contre, du coup, effectivement, les scènes d'action elles sont trop bien. Et par contre, ouais, au niveau de l'histoire. Je comprends pas pourquoi les zombies sont intelligents, ils ont une hiérarchie sociale, il y a des
mais oui,
mœurs
mais oui,
qui
c'est pour ça.
Et tout, et c'est derrière, il y a rien.
C'est pour ça que je te dis que pourquoi nous montrer tout ça et après juste les tuer et en faire juste des gros monstres en fait.
Ben, je sais
quitte,
pas, moi.
Quitte à faire ça, tu manges juste des zombies débiles. T'essayes pas de nous faire genre on va s'attacher à eux, genre montre-nous
oui,
qu'ils ont une
là,
société,
vraiment,
une hiérarchie, que le chef il allait avoir un bébé, qu'en fait on lui a tué sa meuf, genre mais non. Si c'est juste des bêtes moches, sauvages qui butent les gens, on s'en fout. Que là, t'essaies de nous attacher à eux, et au final, ça n'a pas de sens.
Bon, en tout cas, du coup, pour conclure, je trouve que c'est un divertissement qui était quand même assez bon, mais que ça s'arrêtait là. Et j'ai aussi noté que c'était toujours mieux qu'Army of the Steel.
Oh,
Army
spoiler. Mais par contre, je suis pas trop d'accord, c'est pas vraiment un film de braquage. C'est plutôt,
ouais,
je trouve que c'est un film de zombies avec un...
Ah, mais si, il y a une équipe de gens qui doivent aller braquer le casino et tout. C'est en mode équipe de, ah, on est des mecs qui allons braquer des trucs.
Moi, je trouve que c'est plutôt un film de zombies avec un MacGuffin.
Ouais.
C'est tout.
Bon. Peut-être moi qui...
Ouais, et puis...
Film de braquage, en général, t'as des plans, t'as des...
Mais là, il y a des plans.
Mais là, il y a des plans. En plus,
ouais,
il y a même le mec de chez Tanaka qui va avec eux et qui, finalement, qui se retourne parce que ce qu'il voulait, au final, c'était pas braquer le coffre.
Je sais pas s'il faut un traître.
Mais non, mais c'est parce que ce qu'il voulait, au final, c'était pas braquer le coffre, c'était récupérer la tête d'une zombie parce que c'est ça qui coûte le plus cher et tout.
C'est pas des plans de films de braquage. Enfin, Toy Story 3 est plus un film de braquage que...
Ok, mais on va pas comparer Toy Story 3.
C'est pas un film de braquage, c'est un film d'évasion.
Ouais, on est pas...
C'est pas pareil. Mais voilà, enfin, Army of Thieves est un film de braquage.
C'est vrai.
On va terminer donc avec Confession d'une fille invisible. Je ne sais pas ce que c'est.
On termine, oui, avec un film. Alors, Confession d'une fille invisible, c'est un film qui est sorti le 22 septembre 2021, qui fait 1h31, qui est disponible sur Netflix.
Netflix.
Ça aurait pu.
C'est la version Netflix. Riche.
Netflix. C'est un film réalisé par Bruno Garotti et Talita. Reboot. Sauce.
Est-ce que tu peux répéter ça?
Je ne sais pas.
Reboussas, je pense.
Reboussas. Ça raconte l'histoire de Tété, jeune fille brillante, mais socialement inadaptée et prête à tout pour s'intégrer dans sa nouvelle école. Mais la reine du lycée a d'autres projets. Ce résumé est nul. C'était un film que j'ai regardé parce que la petite vignette Netflix avait l'air sympatoche. Écoute, voilà.
Ah, c'est assez peu quand même pour juger la qualité.
Ça a atterri sur mon écran. C'était une proposition de Netflix. Non, raté. Ne faites pas ça. Ne choisissez pas ce que vous donne Netflix.
Surtout qu'en plus, Netflix, je sais pas si vous avez vu, il y a plusieurs vignettes par film et par série.
C'est l'algo qui.
Et en fait, elles viennent pas au hasard. Elles sont vraiment en mode pour tel type de profil.
Je rebondis juste. Pour Army of the Dead, Mathilde, la vignette, c'était la meuf qui conduit l'hélico parce qu'elle est dans quelle série ?
Elle est trop cool, cette meuf,
dans
en
Discovery,
plus.
Dans Star Trek Discovery.
Elle est dans d'autres
et
trucs.
Et comme
elle
Mathilde
bien,
a tout regardé Star Trek Discovery, paf, le lien est tout fait. Voilà.
Mais je sais pas comment ça marche, Gérard, parce que ça, au niveau organisation des données, ça doit être un truc...
Revenons au film.
Pour en revenir à Confession d'une fille invisible, déjà, le titre est incroyable. C'était vraiment pas terrible. Je l'ai regardé en début de mois et je me rappelle plus vraiment de quoi ça parle. Enfin, je me rappelle vite fait. On a une jeune fille qui s'appelle Tété et c'est une ado, quoi. Des fois, elle ne savent pas les cheveux. Elle s'en fout un peu de son apparence. Enfin, des trucs basiques d'ado, quoi. Et ce qui m'a vraiment choquée, c'est que pendant tout le film, sa famille et ses amis même n'arrêtent pas de lui faire des remarques sur la façon dont elle s'habille, sur le fait que ses cheveux ils sont pas peignés comme il faut, que elle s'épile pas, vraiment genre des trucs vraiment mais limite limite pas ouf, franchement. Quelqu'un qui me dit ça aujourd'hui, je pense qu'il se prend un pain. Qu'est-ce que ça lui
parce que c'est un petit peu violent, mais t'es pas
ouais,
contente, quoi.
Mais non, c'était vraiment pas ouf. Et du coup, c'était méchant pour cette jeune fille et clairement pas cool, mais vraiment très très méchant. L'histoire, je ne sais plus. Vraiment.
C'est marrant parce que de ce que t'en dis, on dirait un film qui aurait pu sortir il y a 10 ou 15 ans.
Mais
ça serait passé assez crème, mais maintenant...
Mais en fait, c'est ça, quand j'ai regardé le film, je me suis dit, mais en fait, c'est presque du niveau de Aller trop bien, tu vois. Le film où t'as une personne moche et ils en font quelqu'un de belle à la fin. On est presque dans ce niveau-là. Sauf
elle
que...
avait les cheveux attachés tout le long et à la fin elle était tache.
Non,
je crois
mais
que dans,
c'est pas
que
ça.
Dans
mais...
Elle est trop belle, c'est... elle est trop bien, c'est de ce niveau-là quoi. Elle a des lunettes et les cheveux attachés et quand elle les enlève et qu'elle
oui,
se
détache,
elle
s'habille
les cheveux,
avec
elle
des salopettes.
4000.
Et elle s'habille avec des salopettes. Ouais, attention, la salopette c'est le tue l'amour des filles apparemment.
Puis...
On est dans la mouise parce que moi j'en porte tout le temps
et
les
puis,
gars des salopettes.
Et puis surtout quand tu regardes le nom de l'actrice, c'est enfin le nom, l'actrice est très belle et c'est juste qu'elle est grimée vite fait donc c'est même pas bien fait, voilà.
Bon, écoute.
Ne regardez pas ce film.
Mathilde me fait signe pour dire que ce film ne mérite pas plus d'attention.
Basta.
Alors, on va passer à la suite. Damien, on va reparler de stand-up.
Oui, et ça va être exactement la suite de ce dont.
Je vais dire, ça va être exactement pareil. Je l'ai re-regardé.
Alors. Je l'ai regardé, mais je vais pas parler du revisionnage que j'ai déjà fait. Je vais plutôt parler du spectacle suivant, enfin qui est pas vraiment un spectacle, enfin bref, qui s'appelle Inside. Donc c'est de nouveau de Bob Burnham. Ça n'a aucun rapport avec son spectacle précédent. Et du coup, c'est sorti en 2021, donc tout juste post-confinement. Ça dure 87 minutes et c'est sorti sur Netflix, c'est un special Netflix. C'est quand Netflix produit des spectacles de stand-up. Alors, à travers de nouvelles chansons et perspectives, Bob Burnham revient sur une année bien étrange dans ce spectacle original écrit, filmé et interprété en plein confinement. Et en fait, c'est pas un spectacle au sens propre du terme, parce que c'est écrit, filmé et réalisé par Bob Burnham en 2020 dans...
Hey, slow.
Dans une seule pièce.
Il n'y a pas de public.
Il n'y a pas de public. C'est vraiment juste en mode face cam, en fait.
C'est un smartphone dans un salon, quoi.
C'est pas un smartphone, c'est quand même un vrai appareil photo et du vrai matos de streamer, pratiquement. Mais par contre, ouais, c'est un salon. Juste avant, il a reçu 3 Emmy Awards pour ce spectacle.
Ah
et
ouais.
C'était la première fois qu'un spectacle recevait 3 Emmy Awards la même année.
Donc
il a quand même été plutôt un Emmy pour la musique, un sur l'écriture et un sur la direction.
Pouvons-nous Sachant parler un peu de cette musique ?
Ça tout seul. Attends. Donc, je voulais donner mon avis avant. Du coup, j'ai adoré ce spectacle, qui est moyennement un spectacle. Je trouve que c'est très malin et je voulais attendre un petit peu avant de le regarder parce que du coup, ça parle beaucoup du confinement quand même. Et c'était peut-être pas un truc à regarder juste après parce que c'était un peu triste comme période.
Anxiogène.
Oui, et que du coup, le spectacle est parfois un petit peu anxiogène aussi. Et voilà, j'ai beaucoup ri, c'était souvent très émouvant, peut-être autant émouvant que rigolo. Et il y a énormément de chansons dans ce fameux spectacle et que je réécoute souvent.
Tellement souvent qu'à chaque fois qu'on monte dans sa voiture, on y a le droit.
Mais c'est un hasard.
Le hasard fait mal les choses.
C'est un hasard. La playlist en
boucle.
C'est
pour essayer de vous convaincre de regarder ce spectacle.
Oh là, là il y a une transition incroyable qui est faite.
Ah bon ?
Puisque Mathilde est en train de chanter une chanson des Casseurs Flotteurs. Et on va passer au documentaire et vous allez tout comprendre. On va parler des documentaires donc avec une bande-annonce.
Let's go!
Dis donc.
Si je vous disais que normalement, c'était perdu d'avance.
Carton plein pour Orelsan.
Basique, basique, simple,
basique.
Numéro 1 dans le rap, c'est pas mal. Pour un mec de Provence.
Si je vous disais que pour un mec un peu paumé, c'était impossible de remplir les plus grandes salles de France, de faire des centaines de millions de vues, mais que moi, j'y ai cru dès le début. Si je vous disais que j'ai tout filmé et que personne n'a jamais vu mes images.
Je vais tout filmer jusqu'à ce qu'on fasse des trucs dans le rap.
Arrête de filmer.
Orelsan, c'est mon grand frère. Et j'ai toujours été persuadé que lui et ses potes était destiné à faire de grandes choses.
Pour l'écriture sur l'album, c'est le seul à qui j'ai pensé.
On voyait un artiste poser un truc cool mais très différent.
Tu veux pas monter le son dans le casque un peu, Alfred, s'il te plaît ?
Le premier souvenir est pas un très bon souvenir en fait.
C'était pas un jeu d'enfant de percer dans le rap.
Ça va pas ?
J'avais envie d'arrêter quoi.
Ça va pas du tout, c'est la merde.
Vas-y, qu'au début on le fait écouter à des gens autour de nous. Ils disent c'est une catastrophe, faut pas sortir ça.
Ça sert à rien d'avoir peur parce que c'est pas bien, on recommence et au moins ça fait avancer.
Et on a pris une claque.
En les suivant, je voulais trouver le secret pour réaliser ses rêves. 20 ans plus tard, je suis prêt à le partager. Et tant pis si je lui désobéis.
Par contre, je te préviens tout de suite.
Oui.
Mais montre jamais ça à personne.
Bah oui.
Il s'agit du documentaire Orelsan montre jamais ça à personne. Il y a vraiment Orelsan au début du titre.
Ouais, c'est parce que sinon, on savait pas de qui ça parlait.
Est-ce que vous trouvez pas que la phrase sonne un peu bizarre par contre ?
Mais c'est parce que c'est du Orelsan.
Oui, mais oui, c'est du parler en fait.
Oui, c'est du parler, il le dit dans la.
Oui, mais à chaque début d'épisode.
C'est 6 épisodes de 40 minutes. C'est sorti le 15 octobre 2021. C'est sur Prime Video. On l'a regardé tous les trois. Et donc, ça parle du début des années 2000. Quand Aurélien Cotentin était un jeune provincial de classe moyenne, à l'avenir flou. Quand il se lance avec ses amis dans le rap, il n'a absolument rien pour réussir. Mais suivi à la trace par la caméra de son petit frère, il va surmonter épreuves et polémiques pour redéfinir les contours du rap et devenir l'un des artistes français les plus populaires de sa génération.
C'est marrant parce que le Cotentin, eh ben, c'est une région qui n'est pas...
En Normandie.
Ouais, je comprends pas quand. Non, mais c'est dans la Manche. Voilà.
Ah, le gars, c'est incroyable. Il a le nom d'une région. Voilà, trop bien. J'ai trouvé, moi, en tout cas, ce documentaire exceptionnel. J'ai pas d'autres mots. Est-ce que vous êtes d'accord ?
Oui.
Oui.
Parce qu'à la différence des autres docus qui se résument souvent à finalement voir des gens parler de trucs avec quelques photos d'archives, eh ben là, en fait, juste... C'est une sorte de film rétrospectif complet sur 20 ans, juste parce que son frère a eu l'idée un peu tarée de filmer.
Un maniaque.
Ouais, de filmer son frère qui finalement avait rien à proposer. S'il n'était pas connu, c'est ça qui est fou. Son frère était personne, il dit tiens, je vais filmer mon frère. Enfin, c'est trop bien, c'est incroyable.
Il a senti le truc.
Ouais, mais il y avait quand même plein de chances que son
hasard. Hein.
Ouais.
Bah,
je
après,
pense que
mon...
c'est plus du hasard, quoi.
Après, pour sa défense, moi, quand j'étais au collège, j'avais l'habitude de filmer plein de trucs.
Autant.
Ouais, mais c'était des bouts.
Ouais, mais j'ai... après, moi, j'ai rien gardé, quoi. C'est ça la différence. Ça, c'est que ça s'est perdu au fil des années.
C'est dur de taré. Ouais. Le dérochage a dû être un enfer.
Ouais, je pense qu'il l'a fait sur plusieurs années et que c'est pas un processus qui s'est fait sur un temps très court, quoi. Enfin, je pense qu'au fur et à mesure, il sélectionnait déjà. Enfin, j'espère pour lui, parce que sinon, ça doit être un enfer de.
Oui, oui, bah oui, oui, peut-être. Moi, j'ai pas très envie de raconter ce qu'on y voit parce que ça vaut vraiment le coup de le découvrir en image.
Mince, parce que moi, je comptais vraiment raconter.
Bah, on peut aussi un peu.
C'est pas vrai.
Bon, par contre, j'ai noté, si on s'en fout d'Orelsan, bah, le docu a pas vraiment, enfin, va pas passionner, quoi.
C'est vrai. Si on n'aime pas le
j'ai
rap.
J'ai une bonne interrogation. Est-ce que tu regardes un docu quand tu t'en fous du sujet?
J'ai regardé un documentaire sur Griezmann.
Non, mais par contre, sans ironie.
Personne m'a entendu, mais en tout cas, je veux dire que c'était nul.
Mais Griezmann, t'as voulu regarder ce documentaire. C'est toi qui as cliqué sur la vignette.
Bah oui.
Pourquoi t'as voulu?
Bah, j'avais envie.
Non, mais par contre, globalement, souvent, tu regardes des documentaires pour connaître des sujets.
J'ai regardé. Et encore
oui,
Griezmann,
mais ça veut
ça
dire que tu as une appétence.
J'ai voulu
pour
regarder le
sujet,
docu biographique sur Nicolas Anelka l'été dernier. C'était à chier. J'ai arrêté au premier épisode.
Oui, mais est-ce que c'était la... Comment dire? C'est la façon dont le documentaire avait été fait qui te plaisait pas, ou le sujet? Là, par exemple,
c'est la personne. Je m'en fous, en fait. Mais j'ai essayé.
Bah, pourquoi tu as...
Bah, parce que je voyais que des bonnes critiques. J'ai dit, bah, vas-y, je vais regarder. Et en fait, c'était... Je m'en fous de ce gars. Donc, du coup...
Moi,
là,
j'ai regardé
si
un
allez...
documentaire sur les Blackpink et j'ai appris des trucs sur les Blackpink.
Oui, mais elle t'intéresse. Alors que si là, tu dis, ah, oh, purée, le documentaire sur Orelsan, tout le monde trouve qu'il est ouf. Et qu'en fait, bah, tu t'en fiches de la personne, bah, ça va pas t'intéresser.
Oui, mais ça marche pas pour tous les documentaires. Parce que par exemple, moi, je m'en fiche un peu des baleines. Et bah, pour autant, j'aime bien les documentaires sur les baleines.
Non, mais je comprends. Mais là, du coup, c'est sur
c'est
une
pas pareil,
personne.
C'est pas pareil.
Mais je suis d'accord que des fois, dans la vidéo, en général, j'aime pas trop les cachalots. Par contre, des fois, je tombe sur un reportage sur les cachalots et je les trouve incroyables. Pourtant, j'y pense pas tous les jours aux cachalots.
C'est quand même très proche des baleines et des cachalots.
Je sais. Mais d'accord. C'est parce que j'ai fait un truc de j'ai fait un truc de réalité augmentée il y a pas longtemps où je nageais avec des cachalots et des baleines aussi. Et c'était un peu, c'était très intéressant. Et des dauphins,
des
et des requins aussi,
des
mais
poissons,
les requins non, parce pièges, que j'ai eu beaucoup, non les requins j'ai eu peur.
Tous les poissons.
Non, les requins ça faisait grave peur.
Ça c'est une construction sociale parce que les accidents de requins sont très rares en fait.
Non mais les tous même nageaient.
Il y a un code de la nage requin.
Non, il que parlait des accidents de requins, de se faire manger
par
un requin.
Ah, je pensais que c'était les requins, mais ils rentraient rarement dedans.
Non.
Ah, ils font des petites priorités à droite.
Non mais
des coraux pour indiquer
non non mais par contre moi j'ai même eu peur de nager avec les baleines ou les cachalots parce qu'en fait t'es en réalité virtuelle et tu te retournes et il y a un cachalot à côté de toi.
Mais déjà, je sais pas
flippant.
Si vous avez déjà vu les vidéos où il y a des gens qui sont sur des paddles et où il y a une baleine en dessous.
Ça m'est déjà arrivé, c'est très flippant.
On est quand même très 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 loin du sujet de base.
C'est vrai, mais on a dit qu'on parlait pas vraiment d'histoire du doc.
C'est très intéressant parce que quand j'ai été au Canada, j'ai fait un truc où j'allais voir les baleines. Et j'étais sur un zodiaque et des baleines sont passées sous le zodiaque. Je pense que c'était une des...
Vas-y, ta phrase. Hein,
des expériences les plus... Je sais pas, j'avais trop peur, tu vois.
Là, je comprends.
C'était vraiment très paniquant.
Sinon, qu'est-ce que t'as pensé?
Sinon, pour le documentaire, je me suis dit que son frère était un visionnaire. Genre, il a eu le truc, tu vois. Il s'est dit, en filmant tous ces trucs, et bah, il savait que ça allait. Je sais pas, il a eu. C'est un médium. Du coup, en filmant tous ces trucs, en fait, il nous offre un super documentaire. Et sinon, chapeau, on parle pas énormément du docu, vous vouliez pas, mais chapeau pour. C'est Skret qui s'appelle ?
Ouais.
Oui.
Non mais ce type est incroyable, mine de rien, déjà c'est un génie et en plus moi j'ai trouvé ça tellement beau, le mec réussit et il se dit moi ma réussite je la ferai jamais tout seul, tu vois, j'embarque tout le monde avec moi. Et c'est vraiment un truc aujourd'hui, enfin je sais pas comment ça se passe dans le business et tout ça, mais c'est pas une mentalité qu'on a l'habitude de voir dans ce genre de milieu, quoi.
Je sais pas, parce qu'au final c'est quand même... Enfin, tu vois, il y a un truc d'équipe. Lui, il fait des bonnes prods, mais t'enlèves les chansons d'Orelsan, c'est quand même moins bien. Enfin,
oui,
okay, il aurait pu faire d'autres trucs tout seul, mais ça
il
aurait
a
pas
fait...
forcément
non, mais quand il a été lancé, le type, il se démerdait très bien tout seul.
Bah, on peut raconter ça. C'est que au début du docu, on voit que Skred a notamment composé La Boulette de Diams.
Deux autres titres de Diams, ouais.
Enfin, en fait, le gars aurait pu dire, bah, j'ai mon...
Moi, je m'en sors bien.
Je vous laisse. Enfin, je vais plus dans votre appart à rien foutre. Je monte à Paris, réussir dans le milieu. Et non, en fait, il est resté pour dire à Orelsan, viens, on essaye, on y va. Et maintenant, ensuite, depuis qu'Orelsan est une superstar, il a jamais lâché non plus Scred et Ablai. Et on y va tous les trois ou rien, quoi.
Je trouve que c'est vraiment, mine de rien, dans toutes les personnes qui réussissent, clairement. Ça a rien à voir, mais genre tu vois l'histoire du mec de Facebook, bah il a trahi son ami. Dans Apple, c'est un peu, enfin je sais que c'est pas comparable, mais c'est des artistes qui, et là c'est un artiste qui réussit, et au final ils sont tous restés groupés, enfin leur bande d'amis est restée soudée, alors que plus souvent quand les gens font de la musique, et ça se passe pas très bien. Enfin, on parlait encore il y a pas longtemps de Pirouette, tu vois, ils se sont séparés au mode de couple, ils continuent à essayer de faire de la musique ensemble. Je sais pas trop si ça va fonctionner longtemps, mais
c'est peut-être juste le temps qui joue aussi.
Non, mais tu vois, c'est ça, ils avaient vraiment une mentalité différente. Et ils étaient super soudés et ils ont gardé ça en fait.
Orelsan est presque un groupe en fait, un trio avec deux gars dans l'ombre, mais c'est un peu ça.
Et même quand tu regardes Gringe, désolé, mais ça avait Gringe, on dirait clairement le grand frère raté, quoi. Enfin, moi, dans tout le documentaire, je me suis dit, mais il se trimballe Gringe partout, mais oh là là.
Oui. Mais c'est ça, clair, il aurait pu être laissé au bord
et
de la
route. Et ils auraient pu le laisser à tout moment. Ils auraient pu dire, non, mais ce type, on va rien en faire, quoi. C'est un déchet. Il faut le laisser.
Il y a clairement un moment où on voit qu'il va le chercher alors qu'ils sont
longtemps,
qu'il ne sait même plus écrire des chansons vraiment, qu'il est en galère tout le temps.
Et voilà, quand ils ont lancé le projet Casseur Flotteur, c'est ça, en fait. Orelsan était en pleine ascension et il a dit, bah non, je veux refaire de la musique avec mon pote.
Et mine de rien, bah, au final, Gringe, il a une carrière, quoi, le type. Si, je pense que s'il n'avait pas été porté par ses potes et par Orelsan et par d'autres, bah, il aurait peut-être pas aussi bien réussi, quoi.
Sans doute pas.
Non.
Vu qu'il avait juste l'air de bosser au ciné.
Ouais, mais c'était. Enfin, moi, ça me. C'est ouf. Je trouve ça.
Ce docu dégage de bonnes valeurs positives.
Ouais, voilà. Et c'est rare, hein, dans la musique ou dans ce genre de milieu. Enfin, je te parlais des Blackpink. Le reportage que j'ai vu il y a pas longtemps,
c'est tout l'inverse,
tu vois, c'est vraiment de la compétitivité, les filles elles ont pas de vie, enfin que là, et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce documentaire aussi, c'est qu'on n'insiste pas sur leur vie privée. Genre on sait quelques trucs, on sait que son frère il a des enfants, on sait que Orelsan il a une compagne, mais voilà, tu vois, ils ont pas non
plus.
Plus
que ce qu'il y a dans les choses.
On voit Manu Janine.
On voit, oui, on mais voit c'est ça. Des choses qui mettent en avant.
Non, mais effectivement, c'est pas du tout voyeuriste, quoi.
C'est ça.
Si tu veux apprendre la vie privée, en apprendre sur la vie privée d'Orelsan, c'est pas le bon documentaire.
Bah, en fait, je trouve que si tu veux en apprendre sur la vie privée d'Orelsan, t'écoutes ses chansons, en fait. Je trouve que c'est le meilleur moyen de. Au final, il écrit sa vie, quoi, dans ses textes. Et c'est quand même vachement bien.
Je regarde si j'ai rajouté d'autres choses ou si on a déjà dit à peu près.
Si tu veux, on peut continuer avec
moi,
les baleines.
Moi, j'étais aussi un petit peu que d'apprendre que c'était un bandit parce qu'ils ont quand même volé un ordinateur.
Mais ouais, non, mais par contre, ça m'a rappelé des trucs.
Ah.
Oula, on va encore partir sur des anecdotes.
Non, mais moi, quand je les ai vus, genre dans leur.
J'ai volé des trucs.
Dans leur, c'était une école, un BTS, un DUT, je sais pas trop, en train de voler des ordinateurs.
Oui,
BTS, je crois, mais,
le DUT de Gringe.
Ouais.
C'était en DUT. Bon.
Et moi je me suis dit, oh là là, mais c'est des ouf, moi j'aurais jamais osé faire ça en DUT. Hein.
C'est vrai. Et après, ouais, j'ai aussi noté que du coup, le documentaire il donnait quand même envie de faire des trucs.
Ouais, c'est vrai, il est motivant, je trouve. Il te dit, laisse pas tomber. Et je trouve que la musique d'Orelsan nous dit ça aussi souvent, elle nous dit, laisse pas tomber.
Bah, le documentaire pourrait être résumé en une punchline d'Orelsan, c'est dire que. Non, dire que t'as pas d'art. Si tu veux faire un film, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Voilà, c'est juste ça.
C'est vrai.
Dire que t'as pas le matos ou pas d'argent, c'est un truc de victime.
C'est ça.
Picos.
On va finir là-dessus pour le documentaire et on va écouter la bande-annonce du sujet du mois. Et si vous aviez été attentif, vous savez déjà quel est-il.
Attention, à vos marques, prêts, craquez !
Ludwig Dieter, un craqueur de coffre extraordinaire.
Mesdames et messieurs, le vainqueur!
Nous vous avons observé. J'appartiens à une équipe qui braque des banques à travers le monde. Et on veut vous recruter.
Mais pourquoi moi? Je ne suis pas un criminel.
Le monde est distrait. Cette conjoncture idéale n'est pas seulement notre seule chance, c'est aussi la vôtre.
Ma seule chance? De quoi?
D'avoir une vie moins ordinaire. J'aimerais te présenter l'équipe. Corinna, notre reine du hacking. Rolf, notre chauffeur. Et pour finir en beauté, notre authentique héros de film d'action, Monsieur Brad Cage.
Donc, c'est comme dans un film où chacun de nous possède des compétences particulières et c'est uniquement en travaillant ensemble que nous pourrons accomplir ce qui devra être accompli.
Oui, c'est exactement ça. En nous basant sur diverses sources, nous avons déterminé l'emplacement des trois coffres. Le Rheingold, le Valkyrie et le Siegfried. Ils sont tous la propriété du tristement célèbre milliardaire Vali Tanaka. Des questions?
Non. Oui, beaucoup. Des millions.
J'ai réussi.
Oui, t'as réussi.
Je veux les attraper.
Merci infiniment.
Allez, go, go, go.
Maniez-vous.
Si on fait ça, c'est pour devenir des légendes. Tu fais quoi, là?
Il faut que je chauffe mes instruments.
Le sujet du mois est donc Army of Thieves, un film américano-allemand sorti sur Netflix le 29 octobre 2021.
Allemano-américain.
Wikipédia disait américano-allemand.
Je sais, mais...
C'est super dur de faire ces petites trucs-là. De savoir quel mettre avant et tout ça.
Ah oui, ouais.
Ça dure 2h09, c'est réalisé par Matthias Schweighofer. C'est avec la même personne.
Matthias Schweighofer.
Et Nathalie Emmanuel et Jonathan Cohen.
What, what?
Oui, oui. C'est le préquel du film Army of the Dead.
Et c'était prévu avant même là.
C'était prévu.
C'est vrai que j'ai pas... Est-ce que c'était prévu avant? Est-ce qu'ils ont dit?
Le film a été annoncé avant la diffusion de Army of the Dead.
Ce film là.
Hein?
Donc le c'est un spin-off.
Bah, ils l'ont pas annoncé pendant le To Doom.
Bah peut-être, mais en tout cas la production du film a été lancée avant la diffusion d'Army of the Dead. Est-ce que vous voulez parler de la réalisation? Où je commence?
Moi, j'ai décidé que j'allais rebondir.
Moi, je veux bien commencer.
Je suis une balle rebondissante.
Je suis la rebondissante.
Moi, je veux bien commencer parce que,
okay.
parce que ça va être moins long. au niveau réalisation, moi, j'ai trouvé que la photo, elle était très plate et que ça faisait un peu téléfilm.
C'est vrai.
Genre sur France 3, oh,
c'est vrai.
Heure, ça m'aurait pas choqué.
C'est vrai que le plan là sur le bateau à la fin en drone.
Ouais. Alors sinon il y a aussi un problème d'enchaînement dans le rythme des scènes. Il y a beaucoup de temps où on s'ennuie pour quelques minutes d'action et beaucoup de temps où on s'ennuie pour quelques minutes d'action et du coup moi je me suis un petit peu ennuyé.
Du coup on s'ennuie 5 fois plus.
j'ai beaucoup vu le temps passer, j'ai presque été un peu sur mon téléphone. Par contre il y a quand même quelques points positifs. La réalisation de la scène d'action du premier braquage, elle était vraiment bien, moi j'ai bien aimé. Ouais, elle était top.
Mmh. Oui, je m'en rappelle.
Je m'en rappelle même.
Là, il y a une petite... En fait, c'est quand Brad Cage, donc le monsieur action, il rentre dans la banque.
Wolverine.
Et là, il y a un plan où vraiment on voit avec ses yeux. Il tire des fléchettes, après on recule, on le voit qu'il continue à tirer des fléchettes.
Alors, il s'agit du deuxième braquage.
Ah, exact, c'est pour ça que j'arrivais pas à la remettre. Mmh. Okay.
Je dis des bêtises. Et il se fait tirer dessus par un papy. Ça m'a fait rire. Vraiment, il y a des tonnes d'agents de sécurité. Le seul qui réussit à le blesser ou à le toucher, c'est un vieux papy.
T'as un problème avec les personnes âgées?
Bah non.
Ils savent peut-être bien tirer.
Bah ils tirent plutôt bien, mais ils tirent dans la fesse. D'ailleurs, beaucoup de tirs dans les fesses dans cette...
Ah non, ils tirent dans l'épaule. Dans... Je pense que tu restes bloqué.
Ok, c'était tout au bout. En gros, je trouve ça moyen.
Si vous voulez, moi je peux rebondir. Il y a pas mal de bonnes idées au niveau de la... Enfin, je sais que c'est lent. C'est vrai que c'est pas mal lent, mais il y a pas mal de bonnes idées. Genre le premier braquage, par exemple. Oui,
vas-y, pardon, fini, je fais la
moue. Tu me regardes d'une façon. Le premier braquage, moi j'ai bien aimé, par exemple, où en gros ils disent on va raconter... la façon dont le braquage doit se passer, et après on va voir comment ça va se passer en vrai. Mais non, moi j'ai trouvé ça mignon.
La logique, la cohérence de cette scène. On raconte le truc, et là t'as Sébastien qui dit est-ce qu'on va réussir ? Et là on lui dit mais on l'a fait, on l'a déjà fait. Ça n'a aucun sens.
Mais c'est amusant, c'est une blague.
Oui, mais ça n'a aucun sens. Le mec a eu un blackout en fait.
Mais non, c'est pas ça.
Mais c'est
genre il a été emporté dans l'action.
Mais c'est comme si je te demande ce qu'on va manger et que là tu me dis en fait on vient de manger.
Mais c'est...
Non, là elle te raconte alors on va manger des carottes mais oui. Sur un lit de riz.
Je te dis là... mais on n'a pas de carottes, mais si on vient de manger, ça n'a aucun sens.
On en a pas.
C'est là c'est la personne a fait un AVC dans le camion pendant le briefing. Enfin,
ah
vraiment.
Moi j'ai trouvé ça trop bien.
Mais non, mais c'est un peu rigolo, mais c'est tout quoi.
Moi j'ai pas rigolé parce que ça m'a dit mais
ah, j'ai pas rigolé non plus.
Mais moi j'ai pas rigolé, mais je trouve qu'en fait l'idée est intéressante. Enfin,
ah, déjà t'as plus rigolé quand même.
Non, j'ai pas rigolé, mais en gros quand ils l'ont fait, enfin quand j'ai regardé la scène et tout, je me suis dit eh, c'est marrant ça. Moi j'aurais bien aimé avoir l'idée.
L'idée est pas horrible,
voilà.
Mais
l'idée est bonne.
Mais c'est pas très bien fait.
Je trouve qu'en fait
je pense
c'est
que c'est ça.
Que
il y a plein de ce film est plein de bonnes intentions et de bonnes idées, mais du coup le réel pas assez d'expérience.
Mais là en fait cette blague méta, elle arrive après une autre blague méta qui fonctionne en l'occurrence. Et ça fait un peu. Venez, on fait plein de blagues méta sur les films de braquage. Sauf qu'elle tombe mal.
Tu veux
pas
dire
du tout.
La blague où
la
ils disent.
La première, c'est quand il dit. Alors j'ai noté l'extrait. C'est quand il dit exactement.
Lancez l'extrait. Lançons l'extrait.
Donc, c'est comme dans un film où chacun de nous possède des compétences particulières et c'est uniquement en travaillant ensemble que nous pourrons accomplir ce qui devra être accompli.
Oui, c'est exactement ça.
Là, du coup, ça marche. Parce que vraiment, ça fait parodie de Fast and Furious et des films de braquage où effectivement, t'as la hackeuse, la machin, comme oui. On a entendu. Mais la deuxième marche pas du tout, en l'occurrence. Enfin, le...
Moi, je trouve
que
c'est...
Moi, je suis d'accord, je trouve que ça marche pas.
Moi, je trouve que ça marche.
C'est vrai, j'ai toujours pas compris.
Moi, j'aime bien. Oh, vous avez pas d'imagination. En fait, votre problème, c'est qu'il faut que ça soit concret, il faut que vous le voyez à l'écran. Faut que vous...
Non. Mais là, on l'a vu à l'écran.
Mais en fait...
Mais moi, je pense que c'est pas super bien fait.
Non, c'est
mais
ça, je suis pas contre faire cette blague. Mais là, elle est pas bien faite.
Mais l'idée est bonne.
Oui.
Ce film est plein de bonnes idées, mal faites.
Plein
malheureusement.
De bonnes idées. Ouais, on peut dire des bonnes idées, mais effectivement, tout est mal fait dans ces cas-là, quoi.
Après, en vrai, en y réfléchissant, j'ai du mal à voir comment tu l'as fait mieux. Parce que...
Ah, là, c'est le principe, c'est le travail d'un auteur ou d'une autrice, quoi.
Oui, c'est vrai.
C'est pas le nôtre, du coup.
Oui.
Mais c'est ça. Mais c'est comme les scènes purement d'ouverture de coffre. Bah, la bande-annonce, on se dit, ah, c'est un génie du hacking de coffre, ça va être fou. Bah, en fait, t'as l'impression que je peux le faire demain matin, quoi, que j'achète un coffre,
alors,
je fais clic, clic, clic. Ah, ça fait.
J'ai une question, j'ai une question, une vraie question. Comment t'aurais fait ? Parce que.
Bah, comme lui, je fais tourner, ça fait un gros clic, je fais tourner dans l'autre sens, ça fait un gros clic, et je le fais 4 fois. Et j'ai ouvert le coffre.
Voir 7 fois pour le dernier.
Il fait rien de plus.
Mais ouais, mais tu voulais faire quoi ? C'est pas un casse-tête, ça fonctionne comme ça.
Il
montre.
Je pense pas que ça soit aussi simple.
Mais si, il nous montre. Bah, parce que après, il écoute et tout, mais il nous montre le mécanisme.
Okay, oui, mais regarde déjà dans Army of the Dead, c'est très subtil, mais c'est. Il a écrit des trucs. Il a écrit des trucs avec des angles. Il a fait plein de calculs qui sont écrits sur le coffre.
Mais c'est parce que c'est
déjà
un coffre
là,
encore plus compliqué.
Ben oui, mais déjà là, c'est impressionnant. Et on voit une vraie difficulté qui n'est pas accessible à tout le monde, puisqu'il faut faire des maths, il faut faire des calculs. Et c'est très, très sensible et très pointilleux. Là, quand même, on me dit, alors attention, si tu le fais... Enfin, le moindre mouvement brusque peut faire tout péter. Le fait dans un camion qui roule dans la montagne.
À partir
de ce moment-là.
Le camion qui roule dans la montagne, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah non, mec.
Le deuxième, il
fait rentrer les trucs à l'intérieur parce qu'il avait juste. Il s'était trompé d'un microseconde. Impossible qu'il ouvre le coffre dans le camion.
Mais...
Ou alors, moi, je me suis dit, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, c'est à quel moment qu'elle s'arrête ? C'est à quel moment qu'elle s'arrête pour qu'il ouvre le coffre, quoi.
Et
la meuf, elle s'arrête jamais.
Non mais enfin ce qui
tu vois finalement t'as pas
non, trop aimé.
Ce qui est le plus marquant
non,
c'est quand il y a la scène de braquage un peu enfin pas de braquage mais de comment j'ai noté ça
de prise d'otage
quand au tout début du film là quand il y a les quatre dans l'espèce de hangar
clandestin ça c'était bien
mais en fait qu'est-ce qui fait qu'il a plus de talent que les autres à part que
il
le film montre non mais on voit juste qu'il le fait plus vite
non il s'entraîne
il a
aussi.
Pas on dirait pas qu'il a
on
un génie il le fait juste plus vite
mais si il a un truc
ça c'est plutôt
c'est un film de deux heures merci.
Non, mais ça c'est du bon chaudon de tel, comme on disait tout à l'heure. C'est que on voit effectivement avec juste ce petit truc, il fait, ben en fait, il s'entraîne tout le
et
temps.
Et c'est le même que le dernier coffre qu'il ouvre.
Oui.
Le mécanisme, il te montre vraiment le mécanisme et tout, et c'est exactement le même que le dernier coffre qu'il ouvre, et c'est pour ça qu'il attend le dernier moment pour l'ouvrir, parce qu'il le sait qu'il le fait genre en 8 ou en 10 secondes.
Oui.
Donc il a pas besoin de tout
mais
les 3 minutes.
À part le faire plus vite que les autres, qu'est-ce qu'il a de plus comme talent?
Du coup, c'est méga prétentieux. La
connaissance.
C'est le premier qu'il faisait, l'autre, il aurait pu le faire super
vite. Mais quelle
vite.
Connaissance, puisque le film
connaissance.
Montre
mais
juste
si,
qu'il faut faire des clics-clics.
Mais c'est ce qu'elle lui dit, c'est la fille, elle lui dit, il a jamais ouvert ses coffres. C'est ce qu'on nous dit depuis le début. Tous les 3 coffres, il les a jamais ouverts, donc il techniquement, il y connaît rien. Enfin, il sait pas comment
c'est
ça va se passer
pire.
Sur le terrain. Mais par contre, il a étudié, il est passionné par l'histoire du mec qui a fait ses coffres, et il les connaît, il connaît leur architecture, ils savent comment ils fonctionnent.
Mais oui, mais...
Et c'est ça qui fait
qu'il
arrive.
Mais oui, mais comme c'est jamais exploité, ça, et qu'en fait, c'est juste pour le coffre, c'est faire des clics-clics en tournant. Et que le seul truc qui fait qu'il peut être retenu par rapport aux autres, c'est que... Il a des valeurs et c'est un gentil gangster parce qu'il veut pas l'argent, il veut juste le prestige d'ouvrir ses coffres.
Moi, je trouve que vous êtes de mauvaise foi.
Non.
Parce qu'il montre vraiment souvent qu'il est vraiment passionné par
ce
truc.
Bah oui, mais il y a que ça, en fait.
C'est ce qui fait qu'elle le choisit, lui, et pas
l'autre.
Il a
l'air passionné de genre de littérature, en fait. Il parle plus de l'histoire de...
Mais je trouve qu'il parle des deux. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça super intéressant qu'à chaque fois qu'il ouvre un coffre, il raconte l'histoire. Moi, j'étais, je trouvais
ça cool.
Trop cool.
Ça c'est cool,
ça marche.
Mais
par
en plus,
contre,
ça le met dans un espèce de, ça le met dans un espèce de concentration, tu vois. C'est comme si c'était son truc.
Après, je vois pas non plus pareil comment ils auraient pu vraiment faire autrement parce que
oui,
en vrai, c'est.
C'est pas passionnant.
Quand bien même c'est plus complexe, et en fait, tu te retrouves à un moment donné où tu peux pas vraiment montrer un truc si complexe que
tu
ça.
Tu fais un autre truc, tu fais un autre système, d'autres coffres. En fait, c'est. C'est au taf des gens qui écrivent le film aussi.
Oui,
de...
mais tu fais quoi? Est-ce que, après, j'ai pas fait de recherche, mais est-ce que ces coffres, ils existent? Est-ce que ce type existe? Ou c'est que du fictif? Est-ce que ça a été inventé? Toi, ça trouve, c'est tiré d'un truc vrai, en fait, on sait
pas.
Je sais
pas, c'est kiffé pour
regarder mais
tout
c'est,
ça.
C'est tant...
Moi, ça m'a... Moi, les
quand bien même
coffres,
ça existe, si c'est pas visuellement intéressant, c'est pas grave, on fait autre chose.
Je vois pas pourquoi faire autre chose. L'histoire, en tout cas, est intéressante, je trouve.
Oui, mais le film ne fonctionne pas. Moi, j'ai trouvé que ça fonctionnait pas. J'ai pas été tendu.
Mais c'est la façon dont il montre les choses. Mais moi, pour moi, il y a pas. Enfin, ça veut dire qu'en gros, on fait pas de film sur le mec qui ouvre les coffres, alors.
Non. Ou on fait un film sur un mec qui ouvre d'autres trucs.
ça n'a aucun sens.
Pourquoi pas.
Moi, je trouve que ça n'a pas de sens. En plus, je trouve que le personnage, je sais qu'il s'appelle Sébastien, mais après, il se fait appeler.
Dietrich.
Hein? Diet.
Dieter.
Dieter. Ludwig Dieter.
Ou tu vois, j'y pense là comme ça, j'aurais préféré finalement que le gars, même si c'est grossier, genre qu'au lieu d'écouter, il a une sorte de don, il met sa main et il ressent les vibrations du coffre. Et là, ça lui met un truc en plus par rapport aux autres.
Mais on n'est pas dans un univers surnaturel.
Non, mais déjà, c'est juste ça qui m'embête, c'est qu'est-ce qu'il a de plus que les autres, à part qu'il va plus vite, il a exactement les mêmes techniques que les autres qui ouvrent des coffres. Et si...
Mais il est seul. En fait, je pense que l'histoire, c'est juste un type qui a pas de sens dans sa vie. Enfin, je pense qu'il nous montre ça aussi. C'est un mec.
Ça,
qui a...
c'est les 3/4 des films.
Oui, mais c'est ça aussi qui est important. C'est genre, elle le choisit parce que, tu vois, il avait une vue sur sa vidéo YouTube. Enfin, personne ne regarde ce qu'il fait, personne ne sait qui il fait. Il a pas l'air d'avoir de famille. Il va penser dans la même box tous les jours. Il a pas d'amis. Il boit. Enfin, ses parents sont morts. Et en fait,
encore,
c'est quelqu'un qui
encore,
manque. C'est quelqu'un qui manquera à personne, qui a rien dans sa vie. Et je pense que c'est aussi une des raisons de pourquoi elle le choisit.
Oui, mais ça c'est pas. Oui, ça je suis pas contre. Ça c'est bien. Ça marche.
En fait, tu remets en cause tout le film.
Peut-être. C'est peut-être pour ça que je l'ai pas hyper aimé.
Non, moi je trouve que vous êtes vraiment dur avec ce film.
Et
en plus, je trouve que le personnage principal est vachement attachant.
Par contre, j'ai noté que le personnage est hyper attachant.
Et je trouve
qu'il
joue bien. Je trouve que l'acteur joue bien et que son duo avec je ne sais plus comment elle s'appelle la fille fonctionne bien aussi et que ils sont trop
Nathalie.
Choux. Ils ont une espèce de petite histoire d'amour trop mignonne. Et le pauvre, quand tu apprends ce qui lui arrive après, moi j'étais déçue.
Mais c'est juste cette histoire qui me chagrine. Après, effectivement, Sébastien il est chouette. Il est sympa, on a envie d'être son copain. Enfin, il est marrant, il fait des blagues et tout.
D'ailleurs, ça c'est bizarre du coup qu'il soit autant tout seul dans sa vie parce qu'il a l'air plutôt sympa, il a une passion, tu vois.
Je pense qu'il est pas compris en fait. Parce que c'est ce qu'il disait, les autres ils jouent au foot, ils faisaient des trucs, mais et lui il ouvrait les coffres.
Geek, ça marche quand t'es enfant, mais tu
c'est
vois,
juste que c'est un geek.
Il a la trentaine.
Mais ouais, puis après, il a l'air de vivre dans un village un peu pourri de la... en Allemagne.
Moi je connais pas de gens qui ouvrent des coffres.
Mais moi j'en connais. Hein. Enfin après, c'est peut-être un truc de nerd, mais des gens qui s'amusent à ouvrir des. À faire du lockpicking en divertissement, il y en a plein. Enfin...
Ah, c'est un nom, c'est trop bien.
Tout a un nom aujourd'hui.
Et est-ce que du coup ils braquent des banques?
Non.
D'accord, je suis triste. S'ils le font un jour, je m'appelle.
Non, mais ils ont des espèces de serrures d'entraînement qui sont transparentes où tu vois ce qui se passe quand tu bricoles et tout. Bon.
Voilà. Et est-ce que c'est plus intéressant? Est-ce qu'il y a des trucs à voir?
Alors déjà, oui, il y a plusieurs types de serrures. Du coup, ça fait quand même plus de trucs. Mm. Bon, après... On n'a pas parlé du scénario? Si, on a parlé
si,
du
on a un peu parlé
on
de
a un peu
tout,
parlé de tout, ouais. Mais pas... C'est anecdotique, quoi, je trouve. Mmh. C'est... Ça étoffe l'univers, mais ça apporte rien. Enfin, déjà, on parle d'un gars mort, mais bon, ça, des fois, ça peut... Ça... Enfin, on n'est pas hyper attaché à lui, parce qu'on l'a vu que dans un seul film.
Moi,
mais
je trouve
encore
que c'était le personnage
que...
le plus attachant.
C'est celui que j'ai préféré avec Batista dans le film. Mais...
Ah, c'était la pilote d'hélico.
Bah, elle, s'il y a un spin-off sur elle, franchement...
Elle fait de l'hélico.
Ouais, voilà. Fait de l'écho, on va dire que c'est la meilleure pilote alors qu'elle conduit comme les autres.
Ouais,
non,
et puis c'est peut-être le seul qui a une raison autre que, de que l'argent pour aller dans le coffre, en fait. C'est peut-être ça qui leur...
Mais non, oui. Tous.
Quoi?
Bah, ils veulent tous...
De l'argent, oui.
Non, mais même... Bah non.
Bah, si.
Tu l'as dit tout à l'heure, la meuf elle-même, elle veut pas... Enfin, tu l'as pas dit...
Mais non, mais je parlais pas de ce film-là, je parlais dans Army of Dead, c'est le seul qui avait une autre raison que l'argent... d'aller ouvrir les coffres,
oui.
Même si je trouve que
moi,
mettre
ça me
sa vie...
Moi, ça me choque pas qu'il veuille gagner de l'argent, par
même
contre.
Le fait que mettre sa vie en danger pour aller ouvrir un coffre où il est presque sûr de mourir... Et après, il y a un autre truc dans ce film qui m'a un peu choqué, c'est l'histoire des cauchemars qu'il fait tout le temps avec les zombies. Si
ouais.
Le mec, il fait des cauchemars tout
possible,
le temps
ça.
Avec les zombies,
ouais.
Pourquoi
c'est toi qui
est-ce que quand...
ça pouvait pas être un truc surnaturel, mais là, ça veut
dire... Non, mais
dire,
pourquoi est-ce que du coup, quand les gens viennent lui dire on va aller dans ce coffre à Las Vegas, là où il y a les zombies, moi, je dis, bah non, je viens pas, parce que franchement, j'arrête pas de faire
j'ai fait
cauchemars
des cauchemars.
Je me fais bouffer,
mais déjà, il est dans la ville où il y a les zombies.
Ça,
ça
change
enfin,
rien,
juste à côté, quoi.
Ouais.
Ils vont pas le chercher très loin, de mémoire.
Ouais,
dans
non, ils vont pas le chercher très loin.
Oui, ça, c'est bizarre, ouais.
Il a fait des cauchemars, du coup, il s'est dit, bah, je vais mettre à côté.
C'est sûr qu'il est aux États-Unis, mais... Parce que après il aurait même pu retourner chez lui, tu vois. Mais
ouais, effectivement, en plus, je trouve que ça raccroche assez mal ou assez grossièrement les
ouais,
wagons.
C'est un
préquel grossier.
Ouais.
Où peut-être, je vais pas dire qu'il y a des incohérences.
Bah, un petit peu.
Après, Army of the Dead, c'était assez grossier. Donc.
Oui, mais je veux dire, en tout cas, entre le plot de base de Army of the Dead et la fin de ce personnage-là dans Army of Thieves, bah il y a plein de trucs qui sont bizarres, quoi. Mmh. Est-ce que quand t'es amoureux d'une meuf...
Mais oui, pourquoi est-ce qu'il veut pas récupérer
cette meuf? Est-ce que quand t'es amoureux d'une meuf, tu vas sacrifier ta vie dans une ville de zombies
bah après,
où t'as quand même beaucoup de chances de mourir
après,
et ça, donc tu la reverrais jamais?
Après, elle lui a dit « Trouve-le pour nous ».
Ouais, mais
c'était
tu vois, c'est...
une espèce
c'est...
de quête, tu vois. Ouais,
mais
c'est
la meuf, elle devrait être... Elle est censée être intéressée par le fric.
Ouais, mais c'est pas le cas.
Mais pourquoi?
Parce que ses parents sont méga riches. Et en fait,
mais pourquoi est-ce qu'elle veut ouvrir des coffres dans ce cas-là?
Parce qu'elle
est
comme
elle,
elle kiffe les coffres.
Non, mais c'est même pas ça, c'est qu'elle va contre un peu le truc de ses parents. En fait, c'est elle est issue d'une famille très riche et ça lui plaisait pas. Et du coup, et bah, pour renier ça, elle a décidé de devenir criminelle, tu
c'est
vois.
C'est une rebelle en fait.
Mais c'est ça, c'est une rebelle.
Oui, je vois l'idée,
et
mais
la
du
plupart
coup,
du...
y a plein de coffres.
Et la plupart du temps, c'était en mode elle volait pour redonner aux plus pauvres, tu vois.
Oui, mais il y a plein de coffres. Là, pourquoi est-ce qu'elle l'envoie au suicide alors qu'il y a plein d'autres coffres?
Mais est... parce que celui-là, c'était les coffres ultimes et donc elle voulait être dans l'histoire. C'était comme ça que pour elle, elle voulait devenir une légende, tu vois. C'était une quête plus que l'argent.
Smith. Oui. Non, mais oui.
Moi, je comprends le principe de la quête.
Ah non, par contre, l'histoire des quatre coffres et tout, ça, c'était super bien fait. Et ça, j'ai bien aimé.
Moi, je comprends l'histoire de la quête.
Ça m'a pas...
Est-ce que on parle de Jonathan Cohen?
Franchement, non.
Non, mais je pense qu'en tant que français, on est vraiment très mal placé pour juger ce qui.
Non, mais je sais pas trop ce qu'il fait là.
Bah, il fait là que c'est un plutôt bon acteur en fait.
Ouais, non mais.
Il fait, enfin, Je veux dire, ces scènes sont pas ouf, mais il fait pas tâche au milieu du reste non plus.
Bah
quoi.
Moi, j'ai un peu de mal à le prendre au sérieux. En
oui,
fait.
Bah
mais
pareil,
parce que
mais
j'ai
parce que je me souviens de lui
de...
dans La Flamme, tu
ouais,
vois.
Voilà, c'est
moi,
ça.
Quand il s'énerve, je m'attends à ce qu'il y ait une grosse vanne à la fin et que ça soit débile.
Moi, je vois Serge le Mytho, moi.
Ouais, aussi.
Donc ouais, c'est un peu bizarre.
Bah ouais, il a.
Et bien, il a l'air un peu fou en plus.
Il a le mérite de tester, de se tester dans d'autres genres. Peut-être qu'il a des ambitions américaines.
Ou
peut-être qu'ils avaient juste besoin d'un français.
Hein. Ouais, mais il y en a plein d'autres. Hein. Mais en tout cas, en tant que française et français, il y a un décalage. Oui, ça fait plaisir de le voir, mais il y a un décalage chelou qui.
Mais oui, parce
personnellement,
qu'il fait que
le truc fonctionne.
C'est comme s'il y avait Christian Clavier, quoi. Tu te dirais, bah.
Oui.
Et pourquoi est-ce qu'il se prend une balle dans les fesses? Parce que c'est à moitié censé être une vanne, mais c'est pas marrant.
Mais oui.
Mais c'est parce qu'il voulait lui faire un deuxième trou de balle, peut-être, je sais pas. Mais par contre, est-ce qu'on peut parler d'autre chose? Est-ce qu'on peut parler.
Des baleines et des paddles.
Non, mais. Alexis, de son nom d'artiste Bran Cage.
Oui.
C'est le sosie de
Wolverine.
Ouais, grave.
Alors, vraiment,
plus jeune.
Moi, si je suis Kevin Feige. Et que je cherche un remplaçant à Hugh Jackman, je dis, ah lui, c'est bon.
Bah, sauf que c'est un connard, par contre.
Non, mais, oui, mais c'est dans le film.
Non, non, même dans la vie.
Alors, on peut dissocier
non,
le rôle de l'acteur.
L'homme de l'artiste.
C'est bon.
Non, le rôle de l'acteur.
Ah oui, bah oui, là, oui.
Voilà.
Oui, non, mais c'était vrai.
On va éviter de faire ce genre d'amalgame. Il y a quand même des acteurs, des fois, qui sont insultés sur les réseaux sociaux parce que c'est des connards dans les séries. Hein.
Ben oui,
on se rappellera de certaines raisons de Fry où le gars se faisait harceler sur les réseaux sociaux. Le pauvre, quoi.
Il y a des gens qui ne font pas la différence, malheureusement.
C'est un écran, c'est une fiction, ce n'est pas la réalité.
Je suis d'accord.
Bah voilà, bon, sinon c'était un film pas trop mal, quand même. Moi, j'ai trouvé ça pas trop mal.
Bah,
oh là là.
Moi par exemple, je préfère Army of the Dead.
Franchement,
j'étais plus diverti alors que c'était plus long.
Ouais, mais je pense
je préfère Army of the Dead juste parce que la réelle était vraiment très belle.
Je pense aussi que vous êtes des garçons et que dans Army of the Dead.
Et donc il y a des zombies, donc on...
Non, non, et dans Army of the Dead, je trouve que les filles. Elles étaient pas ouf.
Bah justement, on a préféré Army of the Dead.
Oui, mais justement, je trouve que les filles dans Army of the Dead, elles étaient pas badass, tu vois.
J'ai préféré
si, y avait une...
Nathalie Emmanuel, son personnage est super cool.
C'est qui Nathalie Emmanuel?
C'est la meuf de Army of Thieves.
Oui, et bah, il est cool.
Bah, elle est cool, elle est très
alors,
cool.
Bah, je vois pas où tu veux en venir.
Sauf
du coup.
Que sur l'ensemble de l'œuvre,
bah,
j'ai passé un meilleur moment devant Army of the Dead parce que.
Je trouve que les personnages féminins d'Army of the Dead ne sont pas badass.
Ouais.
Alors que je trouve que dans Army of Thieves, les deux filles, elles sont cool.
Ouais, elles sont
et
super
elles sont
cool.
Badass. Et puis, du coup, en tant que femme, moi, je préfère.
Ah.
J'ai trouvé que ce film. Me plaisait plus parce que je trouve que les femmes elles ont des rôles plus cool, plus sympas.
C'est vrai, elles sont
mieux
écrites.
C'est un point de vue.
Mais en tout cas, moi
alors
je parlais vraiment
de
ressenti global.
Les bonnes femmes, il faut qu'elles soient sauvées, à part la pote du youtubeur là qui, elle, à un moment, elle combat comme une ouf.
La reine des zombies.
Mais la
reine des zombies.
Ouais, mais elle se fait tuer.
Non, là, il y a le youtubeur, le latino qui
a...
s'amuse sur YouTube à niquer des zombies.
Ouais, ouais. Il apporte une pote.
Des zombies.
Oui.
Et elle,
oui.
C'est la seule qui est badass, mais elle se fait tuer.
La pilote d'hélico, elle est badass.
Non, en fait, il y a deux différences. C'est Jack Snyder. Si t'es badass, c'est
Jack
parce que
Snyder.
Tu. Chez Jack Snyder.
Claire Jack.
Non, chez Zack Snyder, quand t'es une fille badass, c'est parce que tu ressembles à un mec. Et les trois quarts des filles dans Army of the Dead ressemblent à des mecs.
C'est pas
sauf la meuf latinas.
Mais parce
qu'elle
est sexy. Enfin, elle a un côté en mode. Elle a un côté en mode sexy, ouais. Elle arrive et déjà, j'ai fait la réflexion quand on regardait le film. J'ai dit, bah celle-là, elle est bien. Elle va tuer des zombies et elle est en crop top.
Ah
et
oui,
je me suis
vrai.
Dit, sérieux, elle a vachement plus de chances de se faire mordre ou griffer, alors que si elle mettait des manches longues, elle aurait moins de chances de se faire griffer. Mais
c'est vrai.
C'est une
mais
réflexion
c'est
logique. Et même la fille du mec là, pareil.
Là, ils mettent tous que des vêtements en Kevlar et ils sont...
Ah peut-être que quand tu vas dans une ville,
peut-être
zombies,
que quand
tu fais
vas
ça.
Dans...
Hein.
Ouais, bah perso.
Putain, on a trouvé la solution.
Perso, j'essaie un minimum.
C'est les petites mamans.
Ce sera la fin de la phrase.
Voilà. Et ben il va y avoir un autre spin-off de Army of the Dead. Ce sera une série animée. Je sais plus comment elle s'appelle. J'ai vu ça sur Netflix aussi.
D'accord.
En gros, il y a un Army of the Dead cinématique universe.
Je sais pas quoi faire de cette information.
Qui arrive.
Animé.
Animé. Ouais.
Pour les enfants.
Ah, je pense pas.
Ah d'accord.
En gros, ça fait un délire un peu comme The Witcher, mais chez Army of the Dead.
Sauf que The Witcher c'était mieux.
C'est mieux.
Bon.
On juge pas quand on regarde pas.
Non, c'est vrai. Bon, j'ai regardé l'animé.
Pas le droit de parole.
On va passer aux recommandations.
Mathilde, on te laisse la parole pour les recommandations de novembre.
C'est marrant, il y a marqué août.
C'est pas moi qui a fait cette partie du conducteur.
Alors, ça continue. Qu'est-ce qui continue ? Souviens-toi, l'été dernier, saison 1 sur Prime Video, on est toujours à un épisode par semaine. Je pense que ça va
se
finir.
Il en reste deux, je crois.
Ah, bah ça va être bien, on va pouvoir en parler le mois prochain. Et ça continue également, Plou Période. Alors, je sais...
T'as dit Plou ?
Plou. C'est comme ça. Je sais pas exactement si ça sera fini en... Combien d'épisodes il reste à sortir ? Moi, j'ai regardé que le premier, que j'ai trouvé très bien, mais en fait, ça m'embête de regarder un épisode par semaine. C'est clairement, c'est un truc que je ne supporte pas, donc j'attends que ça sorte entièrement. Mais en tout cas, ça continue et on regardera. Sinon, ça sort, ça arrive, ça débarque. Ça... je ne sais pas quoi trouver d'autre comme synonyme. Le 1er novembre, Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, la saison 1, arrive sur Netflix. C'est trop bien. Franchement, j'avais hâte de voir cet anime et moi, j'avais pas eu l'occasion de le voir. Donc,
tu sais pas si c'est trop bien, content. Tu l'as pas vu pour l'instant.
Bah, tout le monde en parle, je pense que ça va être ouf.
Vous avez vu les films ?
Bah non, parce qu'on va pas regarder les films avant de regarder l'anime. Ça a pas de sens.
Tu veux dire que c'est pas un original Netflix qui arrive là ?
Hein ? Non ! Non, non, c'est sorti... je crois que c'est déjà disponible sur Wakanim.
Ok.
Et c'est sorti ailleurs. C'est juste Netflix qui a racheté les droits de diffusion en France. Enfin, je pense.
Europe.
En Europe, ouais, peut-être. Sinon, Arcane, qui sort aussi le 1er novembre, saison 1 sur Netflix, avec un épisode par semaine. Donc bah, ça, c'est dans... Ça sort et ça continue, du coup, vu que ça va durer un petit moment, je pense. C'est la série d'animation sur... Comment s'appelle le jeu ?
C'est pas Dota.
Ah, LOL.
Non.
Si, c'est League of Legends.
Oui, si, c'est ça, ça, sur LOL. Et du coup, c'est... je voulais le voir parce que ça avait l'air beau. Je vous avais parlé lors du Toudoum.
C'est vrai.
Le 12 novembre, Maman, j'ai raté l'avion, ça recommence sur Disney+.
C'est une série ou un film ?
Je crois que c'est une série.
Donc,
C'est un film.
Parce qu'il y en a deux déjà.
Enfin, la bande-annonce me donne l'impression que c'est un film.
Ah, d'accord, c'est un film.
Et je me suis dit... Ça va m'énerver parce que c'est un remake.
Est-ce que c'est encore avec Michael
Non, c'est avec le petit binoclard du film de l'année dernière, Jojo Rabbit.
Ah ouais, bah, oui,
son
bien.
Copain là, le petit binoclard qui était trop mignon.
Jojo Rabbit,
bah c'est lui le héros de ce
d'accord.
film. Mais je me suis dit quitte à regarder un film de Noël en novembre, autant choisir celui-là.
Ouais, bah on verra, on a le choix. Hein.
Oui.
Ouais, on en a 6 sur Netflix déjà plus un là et hop. le 16 novembre, alors je sais pas trop exactement comment on le prononce, mais Hellbound arrive sur Netflix. Alors c'est un film coréen qui a l'air grave de faire peur. Enfin vraiment, moi j'ai vu la bande-annonce et je me suis dit...
Mais tu vas pas le regarder quoi.
j'aimerais bien parce que je suis interpellée.
Ouais, puis t'es immunisé aux films qui font peur maintenant, donc ça va aller.
Non, ouais, non, pas du tout. Mais ça m'a interpellée. Le 17 novembre, la saison 2 de Tiger King arrive sur Netflix. On en avait déjà parlé dans... Je sais pas si on avait parlé dans un récapito. Mais en tout cas, on avait
écrit.
Dans un récapito écrit. C'était sorti l'année dernière en plein confinement. Oui. Il me semble ça avait fait un gros... Enfin, ça fait beaucoup parler. Parce que ça parlait d'un mec, en fait, qui avait...
Un taré.
Un espèce de zoo.
Ça part de ça. Ça continue, ce truc.
En fait, ils ont décidé de raconter la suite de l'histoire, d'en raconter encore plus, ouais.
Mais attends, c'est une histoire vraie ou pas au
final ? Oui, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie.
Et donc ça continue en vrai aussi, ça veut dire ?
Non, ça continue pas en vrai.
L'histoire du gars était terminée. Enfin, il était en procès ou je sais plus quoi, il avait tout perdu.
Non, mais c'est en mode plutôt documentaire en fait. C'est pas vraiment une série, c'est en mode série documentaire en fait. Donc je sais pas trop. J'avais la saison 1 en fait, moi, je l'ai regardée et je m'étais dit c'est incroyable que les gens encensent ce type quoi. Genre, c'est devenu presque une star aux États-Unis à cause de ce documentaire. Alors qu'en vrai, il devrait se rendre compte d'à quel point ça pose problème.
Il y a des vrais soucis de santé mentale, ce
monsieur. Ouais, vraiment énorme.
Mais je suis un peu mitigé par ça. Ça fait un peu opportunisme.
Pour gagner de l'argent sur.
Ouais, ça fait un peu opportunisme malsain de Netflix. Ils disent on a ultra cartonné avec le premier documentaire, on va faire une suite. Alors que bah, c'est des gens qui ne méritent pas vraiment...
Ah non, enfin, c'est
ça,
sûr.
Ça mérite d'être...
Après, je pense qu'il faut en parler. Ouais, il faut que les gens soient au courant de cette de ce genre de truc.
Il y a besoin que ce soit via quelque chose qui fait gagner de l'argent.
Non, mais après, c'est
le problème. Mille fois que le Monde fasse un article sur ces personnes plutôt que Netflix des séries. Quoi.
Mais après, je regarderai le début et puis si je vois que c'est trop, bah, j'arrêterai.
Ouais.
Le 18 novembre, La Princesse de Chicago sur Netflix, donc la suite. On en a parlé tout à l'heure. Le 19 novembre, attention, il y a deux grosses sorties, vraiment. On a déjà Cowboy Bebop, donc la série en live action, inspirée de la série animée qui va sortir sur Netflix.
Vous allez avoir le temps de regarder la série animée d'ici là ?
Oui, moi je pense que j'ai recommencé. J'ai recommencé le premier.
L'honnêteté.
C'est méga long.
Ah bon, il y a beaucoup d'épisodes ?
Je crois.
J'imagine.
Ah ouais ?
C'est vieux.
Bah, je regarderais, mais je pensais pas qu'il y avait tant d'épisodes. Je pensais 24 mois.
Bah après, moi, 24 d'ici le 19, à mon avis, je.
24 de 20 minutes, ça va.
Bah,
En mangeant par jour.
Bon, on n'est pas obligé de s'attarder sur mon organisation.
Et sinon, la deuxième grosse sortie, c'est sur Prime Video et c'est La Roue du Temps, saison 1. C'est une adaptation tirée des romans du même nom, il me semble. Et c'est un truc un peu de fantasy ou science-fiction, je ne sais pas trop. Ça a l'air vraiment gros. Personne n'en parle à part moi. Non, c'est pas vrai.
Gros.
Mais c'est gros. Ça a l'air d'une grosse sortie. Et on continue le 24 novembre. Okay. Sur Disney Plus et un épisode par semaine, on est d'accord ?
Ouais.
Ok. De combien de minutes ? Vous savez pas.
Je sais pas du tout.
Ok. Bon, bah, pas beaucoup d'informations.
La série Marvel Studio, qui pour ceux qui n'auraient pas celles et ceux qui n'auraient pas la ref.
Oui, bien évidemment.
Celle dont j'ai parlé pendant mon Hypito.
Oui.
Pour celles et ceux qui n'auraient pas la ref.
Ok, il y a un personnage qui était très ami avec Black Widow.
Pour ceux qui n'auraient pas la ref.
Pour ceux qui n'auraient pas la ref. Ok. Et
qui lance des flèches.
Il lance des flèches, oui. Il a des enfants, il est sympa.
Il n'est pas si sympa. Et je crois que là, ça parle de quand il est moins sympa.
Ah, quand il est au Japon.
Non, là, c'est clairement à une suite à Avengers Endgame. Il a retrouvé ses enfants, sa famille.
Oui, mais je veux dire, Enfin, c'est la suite en fait. C'est parce qu'il a été moins sympa à des moments qu'il y a eu.
C'est un peu son passé quand il était au Japon.
Qui remonte et qui refait surface.
Mais ça a une ambiance très Noël. Voilà. Ah, c'est clairement une série de Noël.
C'est vrai que quand tu dis les deux à suivre.
Non, vraiment, en fait, c'est une série.
Vous savez, ça n'a rien à voir, mais quand vous me dites Noël, j'ai envie de regarder Dash et Lily. Oh là là, j'avais adoré cette série l'année dernière.
Mais tu vas pas la regarder tous les ans parce que sinon,
j'ai clairement envie. Non, mais j'ai envie de lire le livre.
Bah, comme l'année dernière.
J'ai envie de lire le livre, mais malheureusement, je crois qu'il est pas disponible en VF, donc je vais chercher.
Le lire en VO.
Ouais, mais je galère un peu, beaucoup. Et enfin, pour finir, le 26 novembre, nous aurons un documentaire sur Angèle. Alors, tout le monde veut son docu en ce moment.
Ce sera moins bien qu'Aurel San.
Bah, Aurel San a son docu, Big Flo et Oli a son documentaire, les Blackpink ont leur documentaire, j'ai vu qu'il y avait peut-être des documentaires sur les BTS qui allaient arriver.
Je pense qu'il y a des documentaires globalement un peu tout le temps. Hein.
Ouais, mais en fait, sur les plateformes,
dès que t'as une grande tournée ou un grand album, t'as toujours quelqu'un qui te suit en filmant.
Ouais,
quoi.
Mais là, que ça arrive sur Netflix, ça en fait beaucoup.
C'est vrai. Peut-être que c'était plus le cas aux US et que ça vient un peu plus en Europe qu'avant.
On arrive à la fin de ce récapito. Il va falloir faire un choix.
C'est mon tour.
C'est le tour d'Emilien.
Bon, j'avais déjà prévu, j'ai envie qu'on regarde, Souviens-toi l'été dernier, la série de Prime Video.
Combien d'épisodes ?
6, 8.
C'est pas la même chose. Hein. Est-ce que ça va aller, Damien ? 8 épisodes.
Non, mais...
Allez.
Oui, d'autant plus que c'est pas avant le 19 novembre, mais à la fin du mois. Ça fait une diff, il y a 10 jours.
Mais non, mais tu peux commencer maintenant, c'est déjà commencé à sortir, souviens-toi l'été dernier.
Oui, c'est pas ça que je voulais dire, mais oui, je suis d'accord. Ok, ouais, bah sans souci, moi ça me va parfaitement.
Ça roule.
Ça m'a fait peur, cool. Mais...
Ça a fait peur.
Bah ouais. Bah non, toi, t'es pas rentré chez toi toute seule dans le noir après.
Ouais, j'avoue, j'ai pas eu peur. Hein.
T'étais pas démaquillée après.
On a bien fait de pas regarder Halloween.
C'est ça.
Parce que ça faisait vraiment plus peur, ouais.
Bah Halloween, c'est le vrai slasher. Enfin, on en parlera le mois prochain, parce que je compte le regarder là.
Ah.
Et c'est sur Salto, donc on en parle.
Mathilde avait le regardé aussi.
Je ne pense pas.
Non. J'essaie de toucher mon nez avec ma langue.
Peut-être ouais. On va faire ça après.
Le récapito du mois d'octobre est terminé. On espère qu'il vous a plu. On vous souhaite un beau mois de novembre, un bon début de saison de Noël et le raz-de-marée de films de Noël qu'on va se prendre en pleine tronche.
Comme d'habitude, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux Twitter et Instagram et sur notre blog plaid.fr. Vous pouvez nous aider à être mieux référencés en nous mettant plein d'étoiles et n'hésitez pas à nous laisser des messages et des commentaires. On se dit au mois prochain. Merci beaucoup à vous deux.
Merci à toi.
On n'est pas arrivé jusqu'à décembre.
Non, ça, c'est la musique de fin qui s'est lancée toute seule. Ça s'est mis en pause.
Et merci à vous dans les oreilles, bien sûr.
Bye. Bisous.